Rebonjour à toutes et à tous pour cette deuxième leçon inaugurale. Nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir Michel Virlogeux. Michel Virlogeux, c'est grand spécialiste des ponts, le pont de Normandie, le pont de l'île de Ré, le viaduc de Millau, le pont Jacques Chaban-Delmas, le pont Térénès en Bretagne, c'est lui. Tout récemment dans l'actualité, le troisième pont sur le Bosphore qui a été inauguré vendredi dernier, c'est aussi Michel Virlogeux. Michel Virlogeux est un ancien élève de l'école. Il est aussi professeur depuis maintenant plus de 30 ans. Il va tout naturellement nous parler de l'art de la construction des ponts dans l'ensemble de ses dimensions techniques, économiques, environnementales. Voilà, je pense qu'on est tous très impatients d'écouter sa conférence. Merci encore et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, j'étais sur ces bancs qui étaient à l'époque dans le quartier latin il y a 46 ans. J'en suis sorti il y a 46 ans, j'étais déjà à 48. Et les choses ont beaucoup changé depuis, mais on va quand même essayer de présenter ce matin quelque chose d'intéressant sur les ouvrages. Alors, bien sûr, moi, je ne sais parler que de ponts, et donc nous parlerons de ponts. Mais les ponts, c'est très, très, très vieux, et il y a l'art de la construction des ponts est déjà fortement organisé depuis à peu près 20 siècles, et en particulier avec un grand constructeur romain qui était Vitruve. Et alors, Vitruve a défini les règles de la conception et de la construction des ouvrages avec trois mots célèbres, utilitas, firmitas, venustas. Alors, je vais y revenir parce que c'est quand même extrêmement important. Utilitas, qu'est-ce que c'est ? Utilitas, c'est évidemment l'utilité. L'utilité, c'est à quoi sert l'ouvrage, c'est la fonctionnalité, qui est quand même le premier objectif. Les ponts, ils ne sont pas là pour faire un décor, ils sont là pour servir à un certain nombre de choses. C'est aussi, et ça, comme on fait référence à Rome, et au tout début de Rome, enfin, c'est tout début de l'Empire en réalité, on a encore le sens de l'utilité publique. L'utilité publique, c'est le sens de service de la société, ce qui, en particulier, sous-entend le bon usage des deniers publics, quelque chose que certains ont tendance à oublier aujourd'hui. Donc, on a parmi nos objectifs, parmi nos devoirs, celui de rester raisonnable sur le plan économique. Alors, la deuxième règle, elle est absolument évidente, c'est firmitas. Il est préférable que les ponts ne se cassent pas la figure, bien que ça arrive de temps en temps. Mais ce n'est pas seulement la résistance pure intrinsèque, c'est aussi la durabilité. Ça, j'y reviendrai plus tard, certainement, tout de suite d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, etc. C'est très bien, mais le premier objectif d'un bon usage des ressources et de l'argent, c'est de construire des choses qui sont vraiment utiles et des choses qui durent. Et la durabilité des ouvrages, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Et en particulier, un pont, il ne va pas rester tel quel, il vit. Et donc, une des conditions d'une grande durabilité, c'est une capacité, une facilité de la maintenance des ouvrages. Les ouvrages, quand on le conçoit, on doit aussi penser à la façon dont il va être inspecté, visité, entretenu. Parce qu'autrement, il aura une durée de vie beaucoup réduite. Et puis, venustas, évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose que les médias considèrent peut-être un petit peu trop, c'est la beauté, c'est l'élégance. Bien. Mais c'est d'abord l'adaptation au site. L'adaptation au site, c'est absolument extrêmement important. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Et ça vient avant la recherche de la qualité architecturale intrinsèque de l'ouvrage. Il doit d'abord être adapté à son site. Et puis, cette qualité architecturale vient elle-même avant la recherche de l'originalité. Alors aujourd'hui, bien souvent avec les médias, les élus, une inversion des facteurs, c'est-à-dire qu'on cherche d'abord l'originalité pour gagner les concours, pour faire ceci. Et ça, c'est absolument contraire à l'objectif du service de la collectivité. Hein, c'est plutôt plus la mise en valeur du concepteur au détriment du service à la collectivité. Alors, comme on parle d'élégance, j'aurais quand même montré j'ai montré trois dessins très vieux, puisque ce sont des dessins qui viennent des archives de l'école qui avaient été déterrées il y a pas mal de temps par Nicole Goujon et qui ont fait l'objet de la publication d'un superbe bouquin d'Antoine Picon. Ça, c'est des plans d'ingénieurs au XVIIIe siècle. C'est le pont de Mantes qui a été conçu par un grand ancien, premier directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, Jean-Rodolphe Pironnet. Alors, c'est peut-être pas lui qui a fait un beau dessin comme ça, mais aujourd'hui, les dessins sur ordinateur, ça ne vaut pas la qualité des dessins du XVIIIe siècle. Mais à l'école des ponts, enfin, les ingénieurs aussi faisaient, comme les ingénieurs d'aujourd'hui, bien sûr, il y en a certains, les ingénieurs de méthode et de matériel, ils dessinaient aussi, ils imaginaient des engins. Ça, c'est une machine à draguer sous l'eau hein, du XVIIIe siècle, qui est là encore dans les vieux dessins de l'école des ponts. Et à l'époque, les ingénieurs des ponts et chaussées recevaient une formation à l'esthétique, à la beauté, et ça c'était un devoir d'élève, hein, un devoir d'élève du XVIIIe siècle. Alors je ne sais pas quel était le sujet du devoir, mais vous voyez qu'on est très très loin d'un dessin d'AutoCAD. Hein. Il fallait faire des cartes de pays imaginaires et tout un tas de trucs, et je pense que le message que je passe quand même aujourd'hui, c'est qu'un ingénieur qui travaille construit, enfin, que ce soit des ponts ou autre chose, doit garder une certaine, comment dire, sensibilité à la beauté, à l'architecture, à l'art. Aujourd'hui, les ingénieurs ont tendance à perdre la responsabilité de la conception au détriment des architectes, parce que les ingénieurs se sont intéressés de trop près aux règlements de calcul, qui sont hyper chiants, hein, mais un peu nécessaires, il faut bien le reconnaître, au calcul sur informatique et perdent la notion de conception générale, perdent la notion d'art et de beauté. Vous devez, vous futurs ingénieurs, aller dans les musées, regarder les choses, vous devez vous intéresser à ce qu'est la beauté, sinon vous perdrez finalement un petit peu tout. Alors, ceci dit, des ingénieurs, il n'y a pas que des concepteurs, il y a des ingénieurs, je ne parle pas de ceux qui partiront dans la banque, mais des gens qui vont les faire, de l'ingénierie, eh bien, il y a des multiples métiers. Ce que vous allez apprendre dans cette école, pour ceux qui apprendront vraiment et qui travailleront vraiment, vous allez apprendre des quantités de choses dans des domaines divers et vous vous spécialiserez forcément dans certains d'entre eux. Alors, les métiers de la construction, il y en a des quantités. Il y a d'abord des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les gens qui représentent le constructeur, c'est pas l'argent personnel en général, bien que le constructeur d'un pavillon personnel soit un maître d'ouvrage à son échelle, mais les maîtres d'ouvrage, ce sont eux qui s'occupent de la programmation, de la gestion globale des ouvrages, du parc d'ouvrages, des finances. Les finances, c'est particulièrement important. Il y a des financiers dans le domaine. Quand on a des concessions, il est bien évident qu'il y a un aspect financier extrêmement important pour savoir est-ce que la construction de l'ouvrage va être rentable ou pas, etc. Les concepteurs, évidemment, mais ça, on va y passer la matinée. Les ingénieurs d'études, parce que, pour donner un exemple, le troisième pont sur le Bosphore, on a été deux à le concevoir avec Jean-François Klein, mais pour développer tout le projet, tout le détail du projet d'exécution, il y a eu au total une centaine d'ingénieurs qui sont intervenus. Donc, il y a toute une grosse équipe derrière. Alors, on entend souvent dire que c'est tout un travail d'équipe. Oui, c'est absolument un travail d'équipe, mais je rappelle que sur un bateau, il y a également un gros équipage, mais il n'y a toujours qu'un seul capitaine. Sauf dans les bateaux italiens, évidemment, où il y a le vrai et le faux, qui fout le truc sur les rochers des petites îles. Bon, ça, c'est un autre problème. Vous avez des maîtres d'œuvre qui, eux, s'occupent de la direction des travaux, hein, qui sont là sur le site, qui suivent tout ce qui se passe, et qui doivent diriger les entreprises, ce qui n'est pas toujours facile, et qui après, quand ça a foiré, viennent s'occuper des contentieux, auprès avec des avocats, que je n'ai pas mis dans la liste, mais il y a des avocats tout à fait spécialisés dans le génie civil. Et puis vous avez toutes les énormes familles des spécialistes, les matériaux, la mécanique des sols, la climatologie, l'aérodynamique, la sismologie, la résistance au séisme, et puis je n'ai pas parlé non plus des spécialités au sein des entreprises, avec les méthodes, le matériel, etc. Ni non plus des métiers annexes, c'est-à-dire tous les fournisseurs, les gens qui font, par exemple, les ingénieurs qui travaillent pour développer des systèmes de pré-contrainte, de haubanage, d'appareils d'appui, etc. Et puis vous avez enfin les gens de l'environnement, qui sont en général des gens qui ont des bagarres avec les ingénieurs, hein, parce que, bien sûr, ça pose toujours de gros problèmes, tout ça. Alors, on va prendre quelques exemples, puisque c'est en fait pour ça que vous êtes venu m'écouter, enfin, du moins j'espère, et je vais commencer par montrer quelques ponts, simplement pour montrer à la fois la diversité des ouvrages, hein, on peut faire des quantités de choses, hein, même les structures classiques, on peut les rendre élégantes. Alors, voilà un exemple tout simple d'un ouvrage sur l'autoroute A75, qui est le viaduc du Piou, qui est un ouvrage assez simple, c'est un pont d'encorbellement relativement classique, mais qui est bien calé dans son site, avec des formes qui s'adaptent à un site extrêmement joli, mais qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Un autre ouvrage, toujours sur l'autoroute A75, qui est lui beaucoup plus important, c'est le viaduc de Verrières, où là, l'un des problèmes essentiels, qui n'apparaît pas sur les photos, je n'ai peut-être pas choisi la bonne photo pour ça, cet ouvrage est assez proche d'un petit village, avec deux petits châteaux du Moyen-Âge, et le directeur des routes à l'époque, c'est Christian Véry, a demandé qu'on mette l'ouvrage assez loin du village, parce que comme il est à peu près 150 mètres au-dessus du fond de la vallée, pour que le bruit de l'autoroute ne vienne pas complètement empoisonner les habitants du village. Et donc, ça fait partie des types de problèmes que l'on a à voir. Un ouvrage que j'aime beaucoup, mais qui n'a jamais eu beaucoup de succès auprès du grand public, c'est le viaduc Doré, qui est un pont à béquilles, donc une forme complètement différente. Ça ressemble à un arc, mais ce n'est pas tout à fait un arc. Un véritable arc, celui-là, c'est le pont sur la Rance, dont je ne sais plus très bien ce qu'on va lui faire, parce que je crois qu'il faut doubler l'autoroute, et je crois qu'ils vont mettre un deuxième pont à côté, ce ne sera pas terriblement joli. Un petit pont en hauban, qui est mon premier pont en hauban, il y a à peu près maintenant, il a une trentaine d'années, il a 30 ans. C'est le pont sur le Rhône à Seyssel, où là, l'idée est tout simple, c'est qu'il y a deux bras dans le Rhône. Il y a un bras où il y a très peu d'eau, et puis l'autre qui est censé être navigable le jour où on fera remonter les bateaux de guerre jusqu'à Genève. Et donc, il fallait franchir tout ça. Le pylône est placé juste à la pointe de l'île. Et puis, même les petits ponts, on peut s'amuser un peu, on peut faire des jolis petits ponts. Ça, c'est un passage supérieur, c'est le passage supérieur d'Entrenas sur l'autoroute A75, qui est un arc tubulaire. C'est un simple tube qui porte une dalle en béton précontraint par l'intermédiaire d'un petit treillis tubulaire. Ou le contraire, absolument exactement le contraire, c'est-à-dire une dalle en béton précontraint suspendue par-dessous par des câbles. Tout simplement, ces câbles-là sont déviés. Vous voyez les trois bracons qui permettent de dévier les câbles. Et la cassure angulaire et la tension des câbles produit une réaction d'appui vers le haut qui est exactement celle qu'on aurait eue si on avait mis des piles intermédiaires qui auraient évidemment été particulièrement moches. Alors bon, ça évidemment, on s'amuse un petit peu. Je dois reconnaître que sur ces deux ouvrages, je me suis beaucoup amusé, mais ils ne coûtent pas très cher en définitive. Mais c'est quand même plus rigolo de passer là-dessous que de se taper le passage supérieur en béton classique. Un dernier ouvrage qui est juste pour montrer, si vous voulez, les conditions tout à fait différentes qu'on peut rencontrer. C'est un pont en Corse, là, juste à côté d'un vieux pont en maçonnerie, qui n'est pas du Moyen-Âge comme on pourrait le croire, mais qui est un pont génois du XVIIe siècle. Alors là, le problème, c'est qu'on était obligé de passer relativement près. En général, on se débrouille pour essayer de mettre le plus grande distance pour éviter ce qu'on appelle la co-visibilité. Mais à côté, j'ai essayé, la photo n'est pas tout à fait, ne montre pas ça tout à fait, mais de faire à côté de ce vieil ouvrage en arc, un arc moderne, ultra mince, ultra léger, à tel point que le maître d'ouvrage à l'époque, était Ladislas Poulic, était persuadé que jamais on arriverait à le faire passer, alors qu'il passe comme une lettre à la poste. Alors, on va maintenant passer à des exemples beaucoup plus importants en vous expliquant la façon dont se déroule la conception, sans entrer bien sûr dans tous les détails techniques, mais comment se déroule la conception et qu'est-ce qui va guider le choix de la structure et qui va finir par conduire à l'ouvrage final. Alors, je vais monter d'abord pour commencer le pont de Normandie. Alors, le pont de Normandie, il a une très longue histoire. Pour vous donner une idée quand même, moi, j'ai commencé à travailler sur le pont de Normandie en 1976 et il a été mis en service en janvier 1995. Ça fait 19 ans. Alors, évidemment, on n'a pas travaillé tout le temps pendant 19 ans, mais il y a eu des épisodes. Alors, il y avait un premier projet qui avait été fait, mais ce n'était pas moi. J'y ai travaillé, mais je n'étais pas le responsable du projet à l'époque. Alors, j'ai oublié de me déplacer parce que je suis tellement en bas que je ne vois rien du tout. Et à l'époque, si vous voulez, la Seine fait à peu près 900 mètres de large, depuis ce qu'on appelle la digue basse nord, là, qui est une digue qui a été faite pour améliorer le courant dans la Seine et limiter l'ensablement de façon à permettre la remontée des bateaux vers Rouen. Parce que vous savez que Rouen est l'un des premiers, c'est le plus important port céréalier français. Et donc, il fallait que les bateaux puissent remonter. Et donc, bien avant, on avait construit une digue basse nord de façon à séparer la Seine proprement dite des marais, des vasières qui sont en rive droite. Et de façon, encore une fois, à concentrer le courant. Eh bien, le premier projet, il avait une portée de 500 mètres, 520, je crois, je ne sais plus exactement, hein, il y a quand même prescription, et donc avec un pylône en plein milieu de la rivière. Et ce projet a été arrêté en 1978 par Raymond Barre parce qu'on était en pleine crise, je ne sais plus c'était la combienième, je crois que c'est la deuxième crise du pétrole, et il n'y avait plus de sous, et Raymond Barre avait interdit à la Chambre de commerce de lancer un emprunt parce qu'il ne voulait pas tirer sur les capacités financières en France. Donc le projet a été arrêté, et puis peu après, il y a eu pas mal d'accidents, produit par des chocs de bateaux. Le principal ennemi des ponts dans les rivières et les bras de mer, ce sont les bateaux. Alors, de mémoire comme ça, le premier dont j'ai entendu parler, mais c'était un peu... Enfin, j'ai entendu parler après, mais c'était un peu avant que ça s'est produit. C'est un pont en Australie, l'île de Tasmanie, le Tasman Bridge. Il y a un cargo qui a un peu dérivé, qui a tapé la pile du pont et tout le pont s'est cassé la figure sur le bateau. Pour une fois, le bateau était puni aussi. Alors ensuite, vous avez eu d'autres. Hein. Vous avez un jour de brouillard, il y a un bateau qui s'est écarté de sa route pour entrer dans le lac de Maracaibo au Venezuela et qui est passé, qui est arrivé carrément à presque un kilomètre de la passe navigable, qui est venu taper dans une pile du viaduc d'accès et qui a tout foutu par terre. Pareil aux États-Unis, à Tampa. Hein, alors là, je crois que c'était plutôt comme Exxon Valdez, un petit coup de whisky. Et donc, là encore, le pont s'est cassé la figure irrémédiablement. Et puis, le dernier dont j'avais connaissance à l'époque, c'était en Suède. Alors, c'est une affaire assez affreuse. C'était un pont en arc. La nuit, le bateau est passé trop près de la rive. Et l'arc, évidemment, est beaucoup plus bas près de la rive qu'au milieu. Donc, le bateau a tapé l'arc et qui s'est effondré. Et à ce moment-là, malheureusement, personne ne s'en est aperçu. Pendant toute la nuit, pendant plusieurs heures, les bagnoles ont continué à circuler sur le pont et à aller se noyer dans le fjord. Donc, pour revenir au pont de Normandie, quand je suis devenu responsable de l'affaire en 1986, à un moment où les taux d'intérêt avaient baissé et où l'opération pouvait à nouveau être possible, il n'était absolument pas question de laisser un pylône dans la Seine, même protégée par une île artificielle, parce qu'en plus de ça, l'île artificielle aurait augmenté la sédimentation en ralentissant le courant et tout, donc ça posait beaucoup de problèmes, et puis on avait des piles d'accès derrière aussi, c'était une véritable catastrophe. Alors là, on a eu un maître d'ouvrage, puisque je parlais tout à l'heure du rôle de maître d'ouvrage, particulièrement intelligent, Bertrand de Roubaix, qui savait que le port de Rouen ne voulait absolument pas d'un pont de Normandie qui allait mettre le trafic loin de Rouen. Et il savait que donc il s'est bien gardé de dire aux gens de Rouen qu'on avait l'intention de franchir la Seine d'un seul coup. Il continuait à laisser croire qu'on mettait des trucs. Donc les gens de Rouen ont monté tout un machin contre les piles dans la Seine. Et quand on a sorti le truc, évidemment, leurs arguments étaient morts, et donc le projet a pu être fait. Alors, le projet, c'est des maîtres d'ouvrage très importants. Il faut toujours des bons maîtres d'ouvrage. Pour des bons ponts, il faut des bons maîtres d'ouvrage. Il faut que tout le monde soit bon, d'ailleurs. Bon. Alors, cet ouvrage, il faut savoir qu'au moment où on l'a conçu, en 1986, le record du monde de portée des ponts au banc, c'était 465 mètres. Alors là, on est à 856, et donc il faut bien reconnaître que tout le monde avait un petit peu la pétoche, à part très peu de personnes, dont moi. Et donc il a fallu convaincre. Et par contre, l'ouvrage a été conçu de façon à réduire au maximum les déplacements produits par le vent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros ennemi des ponts de grande portée, c'est le vent. Ce ne sont pas les séismes. Plus la portée est grande, moins les séismes sont agressifs, parce que les périodes propres qui viennent du sol sont courtes. Et donc, pour donner une image simple, c'est quand vous avez la secousse qui commence à arriver, avec une période, les périodes propres de secousse sismique, c'est de l'ordre de 0,5 à 1 seconde, peut-être 1 seconde 5 dans les argiles molles de Mexico, mais un pont comme ça, ça a des périodes beaucoup plus grandes. Transversalement, la première période, c'est 6 secondes 8. Et donc, quand la secousse arrive, le pont, il commence à partir, mais quand il n'a même pas le temps d'arriver au bout, que déjà, la secousse est repartie en sens inverse. Donc, en gros, avec cette image extrêmement simpliste, le séisme n'est pas méchant. Alors que, au contraire, les rafales de vent sont dans des périodes qui correspondent aux grands ponts. Donc, d'où le profilage du tablier, en s'inspirant des ponts suspendus anglais, avec une forme compatible avec des travées de rive en béton et des travées de rive et une travée centrale en acier, évidemment, parce que la travée centrale pour qu'elle soit la plus légère possible. Et la conception, donc, pour réduire les déplacements, eh bien, j'ai imaginé des travées de rive en béton avec des appuis courts et une grande travée en acier. Le fait qu'on a une grande différence de poids ici fait que ces travées de rive jouent le rôle de contrepoids, si bien que le pylône est extrêmement stabilisé par les travées de rive. Ce qui a permis de réduire énormément les déplacements. Et donc, on va voir maintenant quelques photos. Puis d'abord, autre élément, toujours, pour réduire l'action du vent, la forme du pylône, qui est belle, mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de pouvoir résister à l'action du vent qui est amenée par les haubans. Parce que ce qu'on ne devine pas, c'est que l'action du vent sur les haubans, transversale, est même plus grande que celle sur le tablier. Parce qu'on a tellement profilé le tablier qu'on a réduit l'action du vent dessus, tandis que plus la portée est grande, plus on a une surface de haubans, ça croît avec le carré de la portée, ça ressemble à une surface et non pas une haubans, et donc, à partir d'un certain moment, les haubans prennent le pas sur le reste. Et donc, à ce moment-là, cette forme, ici, permet, quand le vent arrive par ici, de créer une compression là, une traction de l'autre côté, qui nous permet d'assurer l'équilibre. Et puis, toujours, pour le trouillomètre anti-vent, eh bien, la méthode de construction, qui, avec les travées de rive en béton, permet d'avoir construit, et puis une petite partie en béton symétriquement par des pieds, permet d'avoir construit toute cette partie-là avant, si bien que lorsque l'on construit la grande travée, avec des grands fléaux qui peuvent se balader dans le vent, on est stabilisé derrière. Et donc on a une construction extrêmement sûre, sans compter qu'en plus, tout le travail, tous les ouvriers, tous les matériels peuvent arriver par l'arrière, par le tablier. Alors, deux, trois photos pour vous montrer la fin de la construction de l'ouvrage, avec un derrick qui permet de lever des voussoirs de 19,65 m, si mes souvenirs sont bons. Hein. Et les voussoirs pèsent à peu près 180 tonnes. Quand on lève un voussoir, le tablier descend vers le bas d'à peu près 2 mètres. Puis à ce moment-là, on va mettre en place une paire de haubans qu'on va tendre, et le tablier va remonter de 2 mètres. Et pratiquement, à l'arrivée, l'ouvrage a été construit en restant dans une fourchette de l'ordre de 10 cm par rapport au niveau théorique. Le dernier voussoir, et puis une vue de l'ouvrage avec une idée de l'architecte, Charles Lavigne, qui travaillait avec nous, qui ne voulait pas mettre des poteaux verticaux pour l'éclairage, qui seraient venus en lutte avec les lignes inclinées des haubans, et donc l'éclairage est placé sur les haubans directement. Beaucoup de gens disent que ça ne marcherait pas, en fait ça marche extrêmement bien. Voilà donc le pont de Normandie, et qui nous a beaucoup aidé pour passer ensuite au viaduc de Millau. Alors le viaduc de Millau, j'ai dit Normandie, j'ai travaillé 19 ans, Millau seulement 17, ça s'accélère. Vous allez voir que le Bosphore c'est 4 ans et demi. Alors, le Vieille de Millau, il est dans un endroit vraiment extrêmement particulier, hein, puisqu'on est, on est entre trois plateaux, en réalité. Le massif central, là, est découpé entre... celui-là, si, ça y est. Au sud, vous avez le plateau du Larzac, célèbre par José Bové, du Roquefort, qui est encore plus important. Et puis, vous avez au nord-ouest, ce qu'on appelle le Causse Rouge, et au nord-est, là, le Causse Noir. Et ça, c'est découpé par deux rivières, le Tarn qui arrive du nord à Millau et qui, là, brutalement, tourne à droite vers l'ouest, et qui se passe donc entre le Larzac et le Causse Rouge, et qui reçoit en rive gauche la Dourbie, qui fait la séparation entre le Causse Noir et le Larzac. Je note aussi ici où il y a une espèce de plateau intermédiaire, hein, qui s'appelle le plateau de France, qui est en rive gauche du Tarn, côté Larzac, et qui en fait est un dépôt de produits de dissolution du calcaire qui arrive du plateau du Larzac. Voilà, voilà donc un site extraordinaire. Et en fait, le premier problème qui s'est posé aux ingénieurs, qui étaient d'abord les ingénieurs routiers, mais très vite il s'est avéré que ce n'était pas possible que les ingénieurs routiers traitent un problème comme ça, parce qu'il y a pratiquement, entre le niveau des plateaux et le fond de la vallée, il y a 300 mètres. Donc, peut-être pas 300, mais il y en a plus de 200. Et donc, la première chose, ça, c'est un dessin qui est très moche, évidemment, hein, qui est très vieux, mais il est d'époque, c'est la recherche des tracés qui a été faite à ce moment-là. Donc, on avait... vous ne pouvez pas le comprendre, parce que le truc est dégueulasse, mais je vais quand même vous expliquer, en gros, de quoi il s'agit. Vous avez d'abord ce qu'on a appelé le tracé Grand Est. Alors, lui, c'était super pour les ingénieurs d'ouvrage d'art, puisqu'il fallait d'abord traverser la vallée du Tarn en haut, là, juste à la sortie des gorges du Tarn. Et là, il n'y avait pas de 36 000 solutions. La seule, c'était un pont suspendu de 1000 mètres de portée à peu près. Et puis après, on descendait, et puis il fallait refranchir la Dourbie avec une autre travée de 1000 mètres. Ça aurait été super. Simplement, on n'a jamais osé le montrer aux élus du coin, parce que de là-haut, il était impossible de descendre sur Millau. Alors, vous imaginez un petit peu, c'est la seule ville qu'il y avait entre Clermont-Ferrand et Béziers sur l'autoroute, et on ne pouvait pas la desservir. Donc ça, on l'a laissé dans l'encrier, on ne l'a pas trop montré. Et puis alors après, les routiers nous avaient trouvé des tracés au milieu, par là, en utilisant une dépression locale, et puis il y a eu une pression écologiste, alors débile celle-là, pour aller passer complètement à l'ouest, soi-disant pour éviter, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, mais ce qu'ils avaient... Alors d'abord, ça rallongeait, donc on faisait payer aux usagers des kilomètres en plus, hein, 5, hein, c'est pas rien du tout, quand vous faites le bilan financier de ce truc-là, 5 kilomètres en plus, c'est pas une plaisanterie. Hein. Y a d'ailleurs une autoroute en France sur laquelle j'ai travaillé, a commencé à travailler il y a 30 ans, qui n'est toujours pas construite, parce que les pressions de collectivité locale poussent à faire un détour de 10 kilomètres, ce qui est absolument mortel pour l'économie des usagers. Et puis en plus de ça, les écologistes n'avaient pas vu que là, on coupait toutes les sources du plateau du Larzac. Donc, c'était un véritable désastre. Bon. Alors, ça a été très compliqué. Il y a eu de grandes batailles. Et finalement, c'est moi qui ai trouvé un premier tracé qui a été heureusement abandonné depuis, mais qui consistait à descendre dans un petit talweg, là, à descendre du plateau du Causse Rouge vers le Tarn, de franchir le Tarn par un petit pont auban, et puis de là de remonter par un grand viaduc courbe et à pénétrer dans le Larzac par un tunnel. Donc ça, c'était techniquement et géologiquement faisable. Et puis là, je vais vous montrer des dessins, si vous voulez. Hein, voilà. Alors ça, c'est les vues 3D de l'époque, hein, parce que c'est quasiment l'époque préhistorique en matière de vues 3D, surtout des moyens informatiques de l'administration. Hein. Donc c'était vraiment abominable. Voilà l'ouvrage que ça donnait à peu près. Et puis là c'est un ingénieur routier qui nous a séché, et on était en train de travailler, d'améliorer le tracé. Il a dit, mais pourquoi vous ne restez pas au niveau des plateaux? Et alors là, on est resté comme deux ronds de frites. On avait complètement auto-censuré l'idée de faire un ouvrage qui restait en haut. Là, ça n'a pas duré 3 minutes. Hein. On a dit, oui, on est idiots. Évidemment, ça va conduire, comme vous allez le voir, à des piles de 240 mètres de hauteur. Évidemment, c'est les piles les plus hautes du monde. On n'avait jamais fait ça. Mais ça ne pose pas de problème. On sait très bien qu'on est capable de faire des réfrigérants atmosphériques de centrales nucléaires de plus de 200 mètres. Donc faire une pile de 240 mètres, techniquement, c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a toujours des gens pas très malins qui sont capables de vous dire qu'une pile comme ça, il y a une hauteur limite. Parce qu'ils font le calcul de la section de la pile, ils multiplient par la hauteur, ils multiplient par le poids, et le béton, à partir de certaines limites, s'est écrasé. Ils n'ont simplement pas imaginé qu'il suffit de faire varier la section d'avoir une grosse en bas, des petites en haut, et ça marche très bien. Voilà. Bon. Mais c'est comme ça. Bon. L'ordinateur, c'est bien, mais le cerveau, c'est beaucoup mieux. Alors, très vite, on a instantanément changé notre fusil d'épaule, et puis on a comparé, si vous voulez, deux options. L'option basse dont je venais de parler, là, avec le petit pont au banc sur le Tarn, un échangeur sur le plateau de France, le viaduc courbe et le tunnel, avec une solution où on restait en haut. Alors là, c'est une des premières solutions, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, qui est assez rigolote, où là, il y a 8 pylônes, et puis finalement, on l'a fait avec 7 pylônes, et c'est parti, et on va vous montrer ça. Alors, un autre dessin qui est assez intéressant, et qui vous montre, là, l'impact du choix de l'inscription dans le site et de l'architecture. En haut, vous avez la solution techniquement la plus logique et la plus économique. Vous faites une grande travée à auban de, là, il y a 450 mètres sur le dessin, ça aurait pu être 400, ça aurait pu être 500, et de part et d'autre, des petites travées, enfin petites, c'est 180 mètres, hein, si même, là c'est 170 sur le dessin, mais ça pose aucun problème. C'est faisable, et ça marche techniquement. Mais, je passe à la dépôt suivante, mais d'abord, moi, j'ai trouvé ça moche parce que je trouvais... Enfin, je reviens quand même en arrière. Ça, c'est pas un ouvrage. C'est une série d'ouvrages. Vous avez trois ouvrages, là, en réalité. Vous avez un pont principal au-dessus de la vallée, vous avez un petit accès au nord et vous avez un grand viaduc au sud. Vous n'avez pas d'homogénéité dans cette structure. Moi, j'ai tout de suite, dès qu'on a eu les premiers plans, la coupe du terrain au niveau de franchissement, qui est un peu varié, tout de suite pensé qu'il fallait faire un pont à auban à travées multiples. Pourquoi ? Pour avoir un ouvrage régulier, calme. C'est un paysage calme, le Massif central. Hein. C'est pas la Bretagne, c'est très différent. Hein. Et il fallait, pour moi, un ouvrage extrêmement calme. Et je dois reconnaître que je n'avais pas vu tout de suite quelque chose qui m'est apparu après et qui a été un argument absolument décisif au moment où il y a eu le choix final de l'ouvrage par un jury, c'est que depuis la ville de Millau, on ne voit pas la partie basse du Tarn. Parce que le paysage est coupé au niveau du plateau de France. Et les gens qui voient le plus souvent le viaduc, c'est quand même les habitants de Millau. Eh bien, de Millau, le pont, on le voit comme ça, on ne voit pas la partie basse. Imaginez ce qui serait passé si on avait fait un ouvrage spécifique au-dessus du Tarn et le reste. De Millau, l'ouvrage était incompréhensible. Il fallait donc faire ça. Et d'ailleurs, quand il y a eu le jury, sur les 20 membres du jury, il y avait 8 architectes, et les solutions qui traitaient différemment la partie la vallée du Tarn, proprement dite, ont toutes été éliminées. Alors, ceci dit, un pont à auban à travées multiples, avec beaucoup de pylônes, c'est quelque chose de tout à fait différent d'un pont à auban normal. C'est un fonctionnement structurel totalement différent. Voici un pont à auban normal. Hein, à trois travées, il peut y avoir des configurations un peu différentes, mais en tout cas, un trois travées classique. Quand je charge la travée centrale, que je mets les camions là, elle descend. Parce qu'en général, quand on met une charge, ça descend. Il y a des gens qui pensent le contraire, comme ça. Les haubans sont surtendus. Et quand ils sont surtendus, ils vont faire fléchir les pylônes. Et les pylônes vont fléchir vers la travée. Mais pas si facilement que ça, parce que à l'extrémité là, j'ai des haubans aussi. Et là, ici, je n'ai pas le droit de laisser le tablier se soulever, parce qu'autrement, les voitures auraient un problème. Donc il faut que je me débrouille, pour une raison ou pour une autre, ça sera mon boulot, de faire en sorte que ça ne se soulève pas par là. Mais du coup, ce hauban-là, il est beaucoup plus efficace que les autres. Là, ici, la travée de rive, elle peut monter assez librement, et ces haubans intermédiaires ont peu d'efficacité. Tandis que celui-là, il va tout prendre. C'est-à-dire qu'on les appelle des haubans de retenue. Et du coup, eh bien, mon pylône, il prend une drôle de forme comme ça, là, tchac. Voilà. quand je charge à travers Drive, ça fonctionne de façon différente. Donc, ce que je veux montrer vraiment ici, c'est le rôle de retenue de ces haubans arrière à l'entrée près de la culée qui tiennent la tête du pilote. Si maintenant, je reviens à mon pont en haubans à travers multiple, eh bien, c'est foutu. Je n'ai plus de haubans de retenue. C'est-à-dire que quand je vais charger une travée, vous voyez, ben, elle va descendre, elle fait fléchir les pylônes, ça fait lever les travées adjacentes, et je n'ai aucun freinage. Et puis si je charge la travée d'à côté, tout marche en sens inverse. C'est-à-dire que si je ne réfléchis pas, si je ne trouve pas une solution adaptée, je vais avoir dans le tablier des efforts de flexion extrêmement importants dans un sens comme dans l'autre. Alors pour comprendre comment s'en tirer, il faut passer à deux solutions extrêmes. La première, je vais supposer, ce que évidemment je ne ferai pas, je suis complètement fou, que j'ai un tablier continu, évidemment ça c'est nécessaire, un pilote qui est au-dessus du tablier et lié au tablier, encastré en général, vous pouvez même l'articuler, mais en dessous, j'ai une ligne d'appareil d'appui classique, c'est-à-dire que mon tablier peut tourner librement sur l'appui. Si je fais ça, je n'ai absolument aucune retenue. Mon pilote tourne avec le tablier et je n'ai pratiquement pas de variation de tension dans les haubans. Et donc, je suis à poil. Tandis qu'au contraire, si j'ai une continuité entre la pile et le pylône, ce que les Anglais appellent des tours, d'ailleurs les Anglais font la différence entre ce qu'on appelle un pylône au-dessus et une tour, vous avez la continuité complète. Là, ici, à ce moment-là, quand je charge cette travée, à ce moment-là, je vais avoir une limitation de la flèche produite par la rigidité de mon ensemble pylône. Et donc, c'est de là qu'il va falloir que je crée la rigidité dont j'ai besoin. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça, parce que j'ai un autre problème. La solution, ça serait évidemment de se faire une grosse pile bien mouse, de bloquer mon tablier dessus et en avant l'isette. Seulement, le problème, c'est que j'ai autre chose. J'ai les variations de température. Si vous vous bloquez sur tout un tas de piles hyper rigides, quand il va faire froid, ça tend à se retraitir, il est bloqué par ces piles et j'ai des efforts énormes dans les piles. Donc la solution, inspirée d'une vieille idée de Jacques Mativa, qui a été enseignant dans cette école, qui n'est malheureusement plus dans le monde, ça a été de dédoubler les fûts de piles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez une pile par-dessous constituée d'un gros fût, parce qu'elles sont tellement hautes que il faut pas avoir de problème de stabilité, ce qu'on appelle le flambement. Et puis au-dessus, je vais diviser en deux fûts. Et quand je charge d'un côté, eh bien, je vais avoir une compression dans un fût, une traction dans l'autre, et c'est par la distance entre ces deux efforts que je vais venir bloquer les déformations de ma structure. Et en haut, bien sûr, par continuité, j'ai un V inversé. Un V inversé qui permet de fonctionner de façon cohérente avec la pile par-dessous. Alors, là, on a travaillé avec Lord Foster, enfin, qui n'était à l'époque que Sir Norman, qui est devenu Lord depuis, et c'est, je veux dire que ça a été un travail extrêmement agréable et sympathique. Voici la maquette qu'il avait faite, et voici un photo montage. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps sur le V de Mio, parce que je n'aurai pas le temps, vous n'auriez plus le temps de déjeuner. Mais j'ai quand même vous montrer le lancement, parce qu'il ne faut pas oublier l'entreprise qui, dans ce cas, Groupe Eiffage, a trouvé une solution absolument géniale pour le lancement du tablier, avec un système très compliqué de vérins piloté par ordinateur. Il y a un ordinateur central, tout un système. Et alors, là, vous avez le dernier lancement de l'ouvrage, hein, par pas de 60 cm, qui dure sur 3 jours à peu près. Donc, vous avez vu déjà la Lune tomber une première fois, ça va revenir, hein. Là, c'est le deuxième jour. Alors, et on arrivait à la fin au clavage qui devait avoir lieu un jeudi. Donc tout le monde avait évidemment retenu son jeudi, billet d'avion, voiture louée à Montpellier, etc. etc. Ça, c'est le soleil qui se couche. Hein. Et puis, José Bové avait décrété qu'il allait organiser une manifestation pour la venue de M. Raffarin, qui a immédiatement prévenu, je ne vais pas venir, c'est à lui qui retourne une deuxième fois, et je viendrai samedi. Alors donc on a changé les billets d'avion et tout, et il est venu le vendredi. Comme ça, il était sûr qu'il n'y avait personne. Roverato, qui était le PDG de Fage, était absolument furibard, parce que lui, il était bloqué en Espagne. Voilà, et donc notre système se termine, hein, donc avec un, un lancement assez spectaculaire. Et voici deux ou trois photos de l'ouvrage terminé, hein, qui est vraiment un ouvrage superbe. Voilà, alors, évidemment, c'est particulièrement spectaculaire quand vous avez des nuages dans la vallée. Vous avez les piles avec ce que l'équipe de Foster appelait le chat d'aiguille. Et puis une vue de Millau dans le site. Vous voyez bien ici qu'avec les méandres du Tarn, on ne voit pratiquement pas la partie basse. Une vue tout à fait superbe. Donc ça, Millau, évidemment, c'est un succès médiatique absolument phénoménal. Il y avait des télévisions pour l'inauguration qui venaient de pays comme le Vietnam ou le Chili. C'est invraisemblable. Alors, un autre exemple maintenant, qui est le viaduc de Térénès, pour montrer la diversité des problèmes qu'on a à résoudre et de voir que le travail, c'est d'abord un travail de cohérence globale avant de se mettre à faire des calculs informatiques. Alors, ce que je vais vous montrer sur cette photo, c'est le vieux pont qui n'est plus là aujourd'hui, merci, qui est un pont suspendu. Alors, c'est une histoire, il y avait un pont suspendu qui a été sauté par les Allemands en 1944 parce qu'ils étaient coincés un petit peu là par l'arrivée des troupes américaines. Il a été reconstruit en 1950, mais avec malheureusement un béton qui s'est révélé catastrophique puisqu'il a été l'objet de ce qu'on a l'un des deux cancers du béton qu'on appelle l'alcali-réaction, si bien que les pylônes étaient morts. En plus, le pont était très étroit. Alors, ce que je veux quand même vous montrer, c'est que quand on part de ce que j'appelle le continent, la route arrive comme ceci, elle tourne à angle droit pour franchir l'Aulne, et elle repart sur la presqu'île de Crozon, également à angle droit. Alors, moi, j'étais plus au CETRA à l'époque, et CETRA avait établi un projet avec un tablier en assiette renversée, c'est un truc ultra culotté, hein, qui reprenait le projet que j'avais fait bien avant pour Chalon-sur-Saône, et avec un tracé très proche du pont de Térénès, avec une grande travée rectiligne et des travées de rive courtes et courbes, très courbes. Ce qui fait, vous voyez, entre parenthèses, les mouvements arrière sont extrêmement concentrés. Et alors là, ils n'arrivaient pas à dessiner leur travée de rive, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, alors il se trouvait qu'il y avait, dans les services techniques du Finistère, une technicienne qui était dans le temps dans mon équipe au CETRA, donc c'était facile. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu peux nous arranger la travée de rive? Alors j'ai commencé par réfléchir à des solutions, puis je me suis dit, mais non, c'est complètement idiot, il ne faut pas faire ça, il faut changer complètement le concept, il faut faire un pont courbe. Et la leçon qu'il faut tirer, c'est que quelquefois, il faut changer la question pour pouvoir trouver une solution adaptée. Alors, l'avantage de la travée courbe, c'est qu'elle s'inscrit parfaitement bien dans le tracé de la route. Au lieu d'avoir tac, 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 vous avez un tracé courbe et régulier. Alors, évidemment, ça pose des problèmes techniques non négligeables. Hein. Ça, c'est vraiment pas de la tarte. Hein. Alors, le premier, bon, on m'a dit tout de suite, mais c'est pas possible, parce que les haubans, ils sont rectilignes, donc automatiquement, ça crée une flexion dans le plan horizontal. Ça, c'est une question idiote, hein, parce qu'il suffit de mettre des cartes de précontrainte qui vont créer de la compression de l'autre côté en équilibre. Second problème, des plus en plus difficiles, comme disait Garcimore dans le temps, quand il faisait de la précipitation, c'est d'éviter que les camions viennent taper dans les haubans. Alors pour ça, c'est pas facile, et la solution que j'avais imaginée, avant de me rendre compte que j'avais pas tout compris, c'était d'incliner le pylône, hein, donc on l'inclinait vers l'extérieur de la courbe, et donc du coup, automatiquement, eh bien, ça écartait un peu les haubans et on pouvait passer, voilà. Donc c'était très bien, mais j'étais très très content. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il y a on a lancé les calculs, et là pour une fois, les calculs ont eu raison contre la réflexion, ça arrive. En haut, tout va bien. En haut, ça va bien. Et c'est comme le gars qui tombe de truc, jusqu'ici, ça va. Hein, donc j'avais 90% de la charge dans la jambe intérieure, 10% dans l'autre. Mais alors, en dessous, on avait une flexion épouvantable. Complètement épouvantable, ça marchait pas du tout. Alors, pourquoi? Eh bien, pourquoi? C'est parce que je n'avais pas bien réfléchi. Alors, là, ça va être un peu ardu. Voilà ma demi-travée centrale. Par définition, la travée drive, elle doit équilibrer la demi-travée centrale. Comment? Ça, c'est mon problème. Il faut le faire. Et donc, par conséquent, si je veux comprendre les équilibres généraux, il faut que je considère que j'ai une travée, ma demi-travée centrale et de l'autre côté, le symétrique. Vous n'avez qu'à foutre, mettre une glace au niveau du pilote. Et là, vous raisonnez comme ça, c'est parfait. Donc là, je vais prendre le solide constitué de ma demi-travée centrale avec le pylône au-dessus et puis de son symétrique de l'autre côté. C'est un solide. J'ai coupé là, juste sous le tablier. Je le prends, je le pose sur ma pile. Il a un poids, le solide. D'accord? Mais le poids, il n'est pas là. Il est là, à cause de la courbure. Il est à l'extérieur de mon tracé. Et donc, par conséquent, si j'essaye faire mon poids, là, ici, ma pile inclinée que j'avais dessinée, elle ne va pas tenir une charge verticale importante toute droite. Et donc, ce n'est pas possible. Ça ne marchait pas. Il aurait fallu mettre ici une pile toute droite. Ça, c'est horrible. C'était très moche. Pas question. Alors, avec Lavigne, qui n'est plus là, malheureusement, mais qui était mon vieux complice, on a cherché à sortir de ce trou. Et en faisant plein de dessins qui étaient plus moches et plus agréables. Moi, je voulais dessiner celui en haut à droite, là, qui est dans le beau geste du golfeur, mais il a dit, j'en veux pas. Bon, ah, ok, très bien. Alors, en provocation, j'ai fait ce dessin. Voilà, donc j'ai fait ce dessin en provocation, comme ça, ça claque au cours d'une réunion, et puis alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je suis idiot. Toc. J'incline un petit peu plus la jambe intérieure, au lieu d'avoir 90% de la charge, j'ai 100%. Ici, au lieu d'avoir 10%, j'ai 0, puisque j'ai 0, j'enlève. Et voilà. Et alors derrière, évidemment, tout marche. Et évidemment, en l'espace de quelques heures, ça faisait 6 mois qu'on pédalait dans la choucroute, en l'espace de quelques heures, tout est en équilibre. Et Charles Lavigne a fait dessiner un pylône instantanément. Alors évidemment, ça donne quelque chose de... Alors oui, c'est sûr, il ne va pas vouloir marcher. Bon, c'est tant pis pour lui. J'ai essayé, mais bon, je ne veux pas marcher. Bon, ça, c'est un petit problème informatique de connexion. Donc, ce qui est vraiment très spectaculaire, c'est qu'on circule à l'extérieur des pylônes, au milieu d'un nappe de haubans, comme vous voyez ici. Mais ce n'est pas fait pour être surprenant, c'est fait parce que c'est l'équilibre, le parfait équilibre des charges. Je ne passe pas sur les phases de construction, parce qu'évidemment, pendant la construction, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'on commence par les premiers haubans, là, ils viennent tenter de casser le pylône, il faut mettre des cartes de pré-contrainte provisoire, etc., qu'on va rendre jusqu'à ce qu'on mette le 9e voussoir, puis après, on commence à les enlever. Ouais, donc, je ne suis pas sérieux, là. Bon, enfin, bref. Autre exemple, avec un sujet complètement différent, le pont Chaban-Delmas à Bordeaux, où là, le problème est un problème urbain et de rénovation urbaine. L'idée de Juppé, hein, c'est de relier la rive gauche et la rive droite qui sont très séparées aujourd'hui. Et donc pour ça, eh bien, il faut créer, alors vous avez créé deux nouveaux ponts, hein, et l'un qui est ici, là, qui va être ici, je crois qu'il est dessiné sur l'autre truc, non? Non, ce n'est pas ça. Deux nouveaux ponts. Et non. En même temps, l'autre objectif, c'était de se réapproprier les quais de Bordeaux. Alors là, j'ai deux photos. Malheureusement, je n'ai pas la première, la plus vieille, où vous aviez toutes les installations du port, avec des dépôts dégueulasses, des rats partout, des rails de tram, c'était absolument immonde. Ça a été transformé dans les années 70 en un superbe parking, et là, plus récemment, ça a été complètement réapproprié par la ville, et ça, c'est un espace extraordinaire. Alors, donc, il fallait créer deux nouveaux ouvrages, et quelle solution pour traverser la Garonne? Un pont haut, un pont bas, un pont haut, un tunnel, un pont mobile. Le pont bas, je ne vois pas très bien comment on pourrait le faire, d'ailleurs, parce que... Ah oui, pont bas, alors les Bordelais ont dit on n'en veut pas, parce que ça empêcherait les bateaux d'arriver au port de la Lune, là au milieu de la zone du XVIIIe siècle, qui est superbe, avec la place de la Bourse. Donc ça, out. Le pont haut, épouvantable. Il fallait, à ce moment-là, assurer un gabarit de 50 mètres, c'est-à-dire qu'il fallait partir pratiquement 1,5 km sur Clive. C'est absolument pas un pont urbain, c'est pas compatible. Un tunnel, eh bien, on a un problème énorme. La Garonne est très profonde, et en plus, vous avez des terrains dégueulasses. Donc, deux solutions. Un tunnel immergé, extrêmement difficile à réaliser parce qu'avec les marées, puisque la marée remonte jusque-là, dès qu'on aurait fait la souille, elle se remplissait tous les jours. Un tunnel foré encore plus bas et qui aurait débouché là encore très loin. Donc, aucune connexion possible avec les quais. Ce n'était pas raisonnable. La seule solution possible, c'est un pont mobile, c'est-à-dire un pont qui va rester au niveau des quais et qui va se lever quand les bateaux vont passer. Alors, je ne vais pas, comme je suis très en retard, je ne vais pas insister sur la comparaison, mais quand on fait le bilan entre les deux, il n'y a absolument pas photo. Alors évidemment, ça a créé de gros problèmes parce que Bordeaux venait d'être classé par l'UNESCO, le responsable de l'UNESCO, qui était un petit tyran, qui n'y est plus, Dieu merci, qui était un petit tyran, avait décrété qu'il ne voulait pas de pont, qu'il fallait un tunnel, et le tunnel, ça ne fonctionne pas. Alors, le pont, c'est un pont levant. C'est un pont levant parce que la Garonne fait à peu près 400 mètres et qu'il était impossible de faire un autre type de pont qui aurait conduit à faire des structures absolument énormes dans la Garonne. Un pont levant, qu'est-ce que c'est? C'est comme un ascenseur. L'idéal, c'est qu'il ne pèse quasiment rien, parce que vous mettez des contrepoids à l'intérieur des tours, et que ce que vous avez à lever, pour limiter l'énergie de levage de l'ouvrage, vous n'avez à lever que la différence entre le poids de la travée et le poids des contrepoids. Alors évidemment, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids de travée, parce qu'autrement, s'il n'y a pas de truc, ça gigoterait quand même un peu beaucoup. Hein. C'est pour ça que le pont de Rouen n'est pas génial. Alors, les ponts, évidemment, les ponts mobiles, on cherche à avoir les tabliers les plus légers possibles, et bien souvent, c'est des treillis qui sont absolument moches. Donc, vous avez un très bel exemple ici, c'est le pont du Martrou, qui est le deuxième pont du Martrou. Le premier, c'est un pont transbordeur, je n'ai pas le temps de parler de ça. Mais vous voyez que c'est des pylônes très lourds, avec un tablier très moche. Alors, le problème, c'est que quand on a des structures en hauteur, eh bien, les structures en hauteur, elles sont très visibles, très massives. Donc là, ça va être d'essayer de réduire leur impact dans le site. Alors, comment on peut faire? Alors, là, c'est tout un tas de solutions diverses et variées. À Rouen, l'État a exigé qu'on ait deux tabliers mobiles indépendamment. Alors, au passage, je vais quand même les tacler parce que c'est quand même complètement con. L'idée était que s'il y a un tablier qui ne marche plus, on aura toujours l'autre. Mais le problème, c'est que s'il y a un tablier qui est bloqué en bas et qu'il y a un bateau qui arrive, vous êtes quand même dans une sacrée merde. Hein. Bon, enfin, bref. Donc, là, j'ai réussi à convaincre les gens de Bordeaux, la Cube, qu'on n'impose pas d'avoir des tabliers manœuvrables indépendamment. Donc, on peut avoir soit un grand tablier, soit deux tabliers reliés par des entretoises, ce qui est également très possible avec différents schémas. Et donc, finalement, la solution qu'on a préférée, c'est celle-là, et avec un tablier unique, levré à partir de deux fûts par pylône, aussi mince que possible, hein, très compact comme on va le voir, et j'ai tenu à ce qu'on mette les passerelles piétons à l'extérieur de façon à couper la ligne, de façon à ce que ce soit le tablier qui prenne le pas sur le pylône, hein, et non pas avoir le pylône à l'extérieur. Alors on va vous montrer, alors là ça a été un travail fait encore avec Lavigne père et le fils après, puisque le père nous a malheureusement lâchés, avec de très très beaux dessins. Et puis l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, alors après avoir des compromis qui ont modifié l'architecture des pylônes et leur hauteur, etc., mais qui donne quand même un ouvrage extrêmement spectaculaire et très bien. Alors comme vous avez envie de manger quand même, on va essayer de foncer sur la fin avec le troisième pont sur le Bosphore. Alors, la Turquie est un pays qui a beaucoup de chance. Hein. C'est l'un des rares pays qui s'étale sur deux continents et qui possède une mer en propre, la mer de Marmara, qui est coincée entre le Bosphore à droite et les Dardanelles à gauche. Alors, bien sûr, Istanbul est à cheval sur les deux rives. Istanbul, c'est la plus grande ville d'Europe. Il y a 18 millions d'habitants. Je peux vous dire que c'est quelquefois spectaculaire, quand je suis allé pour l'inauguration, il m'a fallu 2 heures de bouchon pour arriver de l'aéroport à mon hôtel. Et quand on travaillait au début, où on avait des bureaux au cœur d'Istanbul, il m'est arrivé une fois de mettre 3h30 pour arriver à l'aéroport, et évidemment l'avion était déjà parti. Alors, la présence du Bosphore en plein milieu est un problème énorme, Et deux ponts ont été construits, le premier ici, le second là, pour franchir le Bosphore, le premier dans les années 70, et qui est un ouvrage très intéressant, parce que c'est le second pont à tablier profilé, hein, après le pont de la Severn en Angleterre, un pont suspendu à tablier profilé tout à fait remarquable, à peu près 1000 mètres de portée. Et puis à la fin des années 70 ou 80, à la fin des années 80, on en a construit un second, hein, qui a été construit par les Japonais, l'Ayachai, 1000 mètres de portée aussi à peu près, un peu plus classique en forme. Alors, je saute sur cette photo qui vous montre simplement le Bosphore. Voilà le site du pont. Alors, vous apercevez ici une espèce d'avancée, hein, qui a été un remblai provisoire qui a été fait parce qu'il n'y avait pas assez de place côté Europe. Et de l'autre côté, vous avez le petit port de Poyraz, qui est tout à fait intéressant. Alors, le gouvernement turc a lancé un appel d'offres pour construire une autoroute, en fait, de 150 km qui permet de relier l'Asie à l'Europe en contournant la zone urbaine d'Istanbul de façon à permettre de désengorger Istanbul et à permettre aussi de développer un développement urbain côté mer Noire. Et cette autoroute doit franchir le Bosphore avec un ouvrage qui doit porter une autoroute à 2x4 voies plus 2 voies de chemin de fer. Et des voies de chemin de fer lourds, hein, c'est-à-dire on a les voies convois huissés qui pèsent 8 tonnes au mètre chacun, hein, ça fait multiplié par 2, ça fait 16. Et en plus, l'huissé qui voit l'avenir très très loin a décrété qu'il fallait qu'on pondère ces charges sous les charges des conditions de service normales par un coefficient qui varie selon les pays, qui peut atteindre 1,40 et qu'on a péniblement négocié à 1,33. Ceci de façon à permettre le développement de l'avenir. Ça coûte cher. Hein. Alors, la cohabitation de la route et du rail est en général assurée en créant des treillis à 2 étages avec la route au-dessus, le train en dessous. C'est pas très joli. Et là, il se trouve que dans le concours, il était écrit que le gouvernement turc voulait un ouvrage d'une grande qualité architecturale et dont les formes soient de la même famille que celles des deux premiers ponts. Évidemment, ça n'a rien à voir. C'est moche et ça n'a rien à voir avec les formes des deux tabliers profilés du Bosphore. Hein, voilà un exemple de près là, de pont japonais qui fait 15 mètres de haut, hein, pour pouvoir caser le train. Alors le problème, c'est que le règlement disait aussi que c'était un pont suspendu, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'on puisse faire autre chose. Mais ça pouvait poser des problèmes juridiques. Alors, quel est le problème d'un pont suspendu si on veut, pour qu'il soit élégant, mettre les voitures, l'autoroute, au même niveau que les trains, de façon à faire à nouveau un tablier profilé mince, 5,35 m. Ben, le problème, c'est qu'un pont suspendu, c'est extrêmement souple. Si mon train arrive là au quart de la portée, parce que les trains sont beaucoup, beaucoup plus lourds que les voitures, qu'est-ce qui va se passer? Le tablier descend, j'ai déjà dit, hein, quand on met une charge, ça descend, il n'y a pas de mystère. Le problème, c'est que le câble porteur, lui, va descendre de ce côté-là, mais il va remonter de l'autre. D'une certaine façon, le câble porteur se dérobe sous la charge. Et donc la flèche que prend le tablier, c'est-à-dire le déplacement vertical, est absolument énorme. D'où, on a travaillé à deux là-dessus, hein, c'est Jean-François Klein, mais ça c'est plutôt moi qui l'ai défini, d'où l'idée de rajouter des haubans. Pourquoi? Eh bien parce que les haubans sont beaucoup plus efficaces. Le hauban, il va prendre la charge là où elle est, il la remonte sur le pilote. Et comme, alors là je n'ai pas mis le détail des travées de rive, mais vous avez déjà compris que les travées de rive, on peut les rendre très raides par des tas de façons, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, et donc par conséquent, comme le pilote il est très stabilisé par les travées arrière, eh bien c'est très efficace. Alors cette idée-là n'est pas neuve. C'est une vieille, vieille idée du 19e siècle, et en particulier d'un très grand ingénieur allemand, au départ un philosophe qui s'est installé aux États-Unis pour faire de l'agriculture, et puis qui au bout d'un certain temps est passé à la confection, à créer une câblerie, et puis après s'est mis à faire des ponts pour utiliser ces câbles, John Robin. Et il a construit un premier pont, un très spectaculaire, qui est le pont sur les chutes du Niagara, qui n'est plus là, qui était un pont en treillis en bois, avec les trains au-dessus et les voitures en dessous, les voitures à cheval, évidemment. Et puis après, il n'est plus là celui-là, bien sûr. Et après, il a construit le pont de Brooklyn. Et vous pouvez voir ici que de part et d'autre des pylônes, sur une grande distance, vous avez des haubans. Alors vous avez des haubans parce que le tablier était très souple et qu'il voulait absolument, à l'époque, on n'avait pas une domination très grande des effets du vent et des charges, et il voulait donc rendre l'ouvrage plus rigide. Et donc il a associé déjà la suspension et du haubanage. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il n'avait pas d'ordinateur pour faire le calcul. Non, mais il était intelligent, c'est la différence. Donc, il a décrété qu'il prenait la moitié des charges dans les suspentes, la moitié des charges dans les haubans, et en avant les aides, ça marchait très bien. Il est toujours là, hein. Et il a même ses câbles d'origine. Voilà, et alors donc c'est grâce à ça, grâce à cette idée, on a pu dessiner un tablier, avec Jean-François, qui est extrêmement mince, 5,35 m, et donc des formes qui rappellent beaucoup celles des deux premiers. Voilà les dimensions. La portée, 1408 mètres, parce que Jean-François, au départ, on avait la possibilité de mettre un pylône dans le Bosphore, et Jean-François a trouvé que c'était complètement idiot pour protéger à la fois la navigation, les pêcheurs, et puis pour gagner du temps, parce qu'aller faire une fondation offshore, hein, ça prend du temps et de l'argent. Et il a réussi à convaincre nos amis turcs et italiens, puisqu'on travaillait pour un groupement concessionnaire turco-italien, italo-turc. 1408 mètres. Pylône, 329 mètres. Pratiquement, on a à peu près 75 mètres par-dessous. Et puis, l'une des dimensions les plus spectaculaires, la largeur du tablier, 58,50 mètres, puisqu'on a notre autoroute à 2x4 voies, les deux voies ferrées, et les trottoirs de deux côtés, trottoirs qui sont interdits aux piétons, qui sont simplement là pour la maintenance. Alors, Jean-François a aussi profité parce qu'on a eu exactement 2 mois pour faire le projet. On est parti d'une page blanche, on a eu 2 mois avant la remise des offres. Et Jean-François a profité de ce que j'étais en vacances pendant 15 jours au début, lui il était en vacances 15 jours à la fin, pour dessiner un pylône superbe, hein, très incliné, qui a des formes très différentes des pylônes de pont suspendu classiques. L'inconvénient, évidemment, c'est que ce pylône ici nous impose de mettre les câbles de suspension de part et d'autre des voies ferrées, parce que en tête de pylône, les câbles porteurs, il faut bien qu'ils soient portés par les jambes de pylône, ils peuvent donc être qu'en haut, là, au milieu. Et donc, ça, évidemment, ça crée une difficulté, c'est que avec des câbles de suspension qui sont très peu excentrés, on a beaucoup moins de rigidité de torsion dans la partie centrale des tabliers, comme vous le verrez. Par contre, les haubans, dans la grande travée, on va les ancrer aux extrémités. Quelques détails techniques, peu, hein, rassurez-vous. D'abord, l'importance des charges variables et de la proportion des charges variables. On a comparé le pont de Normandie, non pas la taille n'est pas la même, mais ce n'est pas ça l'intéressant, et le Bosphore. Dans le cas du pont de Normandie, les charges routières, les charges qui permettent, qui vont créer des variations d'effet, ne représentent que 28% en plus des charges permanentes. Donc ça veut dire que c'est une faible variation. Dans le cas du Bosphore, avec nos gros trains et les coefficients de sécurité qu'on nous a collés par-dessus, coefficients de majoration, eh bien, le rapport des charges variables sur les charges permanentes, c'est 54%. C'est-à-dire c'est le double. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est une contrainte absolument majeure. Les haubans, là, évidemment, eh bien, les haubans, ils ont un poids, les haubans. Et donc, ils font ce qu'on appelle un effet de chaînette. Et évidemment, quand vous avez une variation 54%, eh bien, ça veut dire que vous avez une très grande variation de chaînette et nous avons, qui a des conséquences non négligeables sur la conception. Alors, bien sûr, on est dans une unité hypersismique, tout le monde sait que la Turquie est très sismique. Heureusement pour nous, si vous regardez le dessin du bas, eh bien, la grande faille nord-anatolienne, elle part de la baie d'Izmit, pas du tout du Bosphore, et elle va rejoindre Istanbul, si vous voulez. Istanbul, vous voyez là, elle n'est pas vers Istanbul, mais elle repart vers l'Europe là-bas. Le Bosphore, au contraire, on est assez loin, et donc on a beaucoup moins, les séismes sur le Bosphore sont beaucoup moins sérieux qu'à Izmit, pour donner une idée. Comme j'ai travaillé sur le viaduc d'accès au pont d'Izmit, l'accélération extrême qu'on peut subir l'ouvrage à Izmit, c'est 2,6 fois l'accélération de la pesanteur, ce qui est absolument colossal. Et pour le Bosphore, ce n'est qu'une seule fois. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, les grands ponts sont peu sensibles au séisme. Le vent, donc on a évidemment, comme on n'avait pas assez de données, on a fait appel au CSTB qui a installé des pylônes de mesure qui ont permis de faire des corrélations et de définir vraiment bien le vent qu'on va subir. Et puis on a fait plein d'essais en soufflerie avec des maquettes rigides avec des petits capteurs de pression pour le pylône, avec des systèmes de tronçons de tablier et une maquette aéroélastique globale qui a été testée au Polytechnico de Milano avec des soucis parce qu'un jour il y a eu une visite des clients turcs qui ont donné des commandes pendant que le patron de la soufflerie était parlé, ils ont donné une commande, ils ont fait une fausse manœuvre qui a pété la maquette. Bon. Et alors après, ils prétendaient que le pont n'est pas. Bon. Alors on va maintenant passer à la conception. Alors on a une travée principale, et puis il se trouve que les rives sont très escarpées du Bosphore, ce qui fait qu'on a un ouvrage qui a des travées de rives extrêmement courtes. Hein, on a donc trois parties, la travée principale, les travées de rives, et puis derrière, vous voyez qu'il y a des haubans qui sont encore ancrés dans ce qu'on appelle des massifs d'ancrage à terre. Au départ, on avait prévu de tout faire en acier, parce qu'on avait, en deux mois, on n'avait pas le temps de beaucoup réfléchir. Finalement, pour des raisons économiques, les travées de rives et les pylônes sont en béton. Les conditions de liaison, ça c'est vraiment important, les conditions de liaison, c'est déterminant dans la conception d'un pont. Alors, on a des appuis verticaux partout, les pylônes, les pilettes, partout. On a un blocage transversal du tablier, pour le vent, uniquement au niveau des pylônes et des culées. Parce que les portées des travées de rives sont tellement courtes que si je mettais un blocage transversal sur la première pile, dès qu'il y a un coup de vent, il y aurait des efforts absolument gigantesques en tête de cette pile, c'est pas possible. Et on n'a aucun blocage longitudinal parce que nous ne voulions pas avoir d'efforts trop importants transférés sur un pylône en cas de séisme. L'organisation de la suspension. Alors là, les travées de rives très courtes nous ont joué un sale tour. On a d'abord la partie centrale qui est purement suspendue avec les câbles et les suspens de part et d'autre du train. On a, près des pylônes au contraire, une partie uniquement haubanée avec les haubans qui sont ancrés dans les rives. Et puis entre les deux, on a une zone de transition avec à la fois des suspens et des haubans. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si on passait brutalement d'une zone haubanée à une zone suspendue, comme la zone suspendue est beaucoup plus déformable, on aurait une concentration de moment dans cette zone de transition, à la liaison entre les deux. Et donc, il faut étaler sur une grande distance. Et là, à ce moment-là, dans cette zone, vous avez à la fois des suspentes de part et d'autre du train et des haubans ancrés en rive. Dans les travées de rive, et là, ce n'est pas ce qu'on a fait de plus malin, hein, on a les haubans ancrés de part et d'autre du train, ça c'est bien. Mais malheureusement, au lieu d'avoir créé une espèce de petit tunnel, on les a ancrés directement dans les âmes, ce qui est, à l'arrivée, est une connerie, parce qu'au point de vue maintenant, ce n'est pas cadeau. Et puis derrière, les derniers haubans sont ancrés à terre, alors ils sont ancrés à terre, enfin dans un massif de béton. La chaussée, elle, est directement sur le terrain, mais on a un massif de béton avec des petits tunnels pour aller ancrer les haubans. Alors ça crée des conditions très particulières d'équilibre des efforts. Ce que je veux montrer là, c'est que l'ordinateur, c'est très très bien, mais l'ordinateur, il vient après. La réflexion, elle vient d'abord, et l'organisation de la matière se fait par la réflexion et pas par l'ordinateur. Vous avez 17 paires de haubans, les 17 premières paires de haubans de la travée centrale, qui sont équilibrées par autant de haubans dans la travée de rive. Quand j'ai un tronçon de tablier, il a un poids, G, qui est repris par la composante verticale de la tension des haubans, T égale G sur sinus alpha, où alpha est l'angle du hauban avec l'horizontale. Mais évidemment, cette tension du hauban crée un effort horizontal dans le tablier, T cosinus alpha, c'est-à-dire, comme vous avez compris, G divisé par tangente alpha. Comme mon pylône, je ne veux pas le martyriser, je veux que la composante horizontale du haut-banc arrière équilibre la composante horizontale du haut-banc avant. Et j'ai donc, comme l'inclinaison différente, une tension T' qui est directement la conséquence de la tension, du poids que j'équilibre dans ma travée centrale. Et évidemment, du coup, ça recrée dans la travée drive un effort horizontal qui, évidemment, à cause de l'équilibre que j'ai imposé en haut, est en équilibre. Et donc, je suis en équilibre de part et d'autre de mon pylône dans les efforts de compression. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, je vais regarder mes 5 paires de haubans qui sont dans la travée centrale et qui sont équilibrées par 5 paires de haubans ancrées au sol. Je refais mon même raisonnement. J'ai mon poids de tronçon de tablier pris par la composante verticale de la tension du haubans qui me crée une action horizontale dans le tablier, mais je verrai où elle va passer, et une traction en tête de pylône que j'équilibre par une traction égale dans la travée de rive. Mais celle-là, cette traction, elle est amenée directement dans le sol. Elle ne va pas venir dans le tablier. Donc, comment vais-je équilibrer l'effet de la composante horizontale tension? Eh bien, elle va passer en traction dans la partie centrale du tablier. Donc le pont du Bosphore a cette particularité unique que dans la partie centrale du tablier, il est soumis à une traction d'environ 8 à 9 000 tonnes à vide. Alors, je ne parle pas du cadre de suspension, parce que lui, de toute façon, il est absolument classique. La seule chose qui change, c'est qu'il ne prend pas tout le poids du tablier, il prend le poids de la partie centrale et à peu près la moitié du poids de la partie de la zone de transition. Tout ça, ça va bien. Maintenant, je vais faire passer mes trains. Et là, à nouveau, catastrophe avec mon histoire, là. Parce que mon train, ici, là, quand je le mets au quart de la travée, quand ça fait mal, là, eh bien, j'ai les tensions de mes haubans qui sont là, qui sont à peu près équilibrées, parce que comme il y a des flèches, c'est pas l'équilibre, c'est pas parfait, mais pour mes 17 paires de haubans, les 17 premières paires de haubans, eh bien, je suis à peu près équilibré. Mais, ici, la surtension créée par le passage de mon train sur les 5 paires de haubans dont les correspondants sont en cratère, elle ne peut pas s'équilibrer. Et elle ne peut pas s'équilibrer par une traction dans le tablier, parce que l'autre côté, c'est libre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tablier va se déplacer. Le tablier va se déplacer vers la culée de ce côté-là, parce que j'ai un déséquilibre. Alors, évidemment, le problème, c'est que ce déplacement-là, il était trop grand. Alors, comment le réduire? Alors, il se réduit d'abord, naturellement, par la variation de tension dans les haubans. Parce que comme mon tablier se déplace, les haubans, ceux-là, là, ils vont être surtendus, ceux-là détendus, ceux qui sont là, ici, dans le trait central, sont surtendus, et les autres détendus, c'est bien qu'au total, j'ai quand même un effet élastique de rappel des haubans. Mais ça ne suffit pas. Et d'où l'idée de mettre ce qu'on appelle des appareils d'appui pendulaire, alors qui n'ont jamais été utilisés pour ça jusqu'à maintenant, mais qui étaient utilisés en génie parasismique pour s'opposer aux choses. Et donc, le principe, c'est un peu compliqué, hein. Je vais vous montrer, hein, voilà un, voilà les plus gros. Alors, ce qui se passe, hein, on va pas détailler la formule, évidemment, ce qui se passe, c'est quand le tablier se déplace, alors il se déplace par quel côté, que je ne dise pas de bêtises, voilà, il se déplace vers la gauche, eh bien, l'olive tourne vers la droite, et du coup, crée une réaction inclinée qui vient s'opposer au déplacement. Et donc, nous avons limité les déplacements par l'effet de rappel élastique des haubans, par l'inclinaison de la réaction des appuis pendulaires, plus le frottement des appareils d'appui pendulaire. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'il fallait que l'effet soit progressif, parce que si, quand l'olive tourne, ça fait un peu monter le tablier, et il n'est pas question qu'il monte au niveau de la culée. Alors ça crée, personne n'était convaincu, donc il a fallu aller faire un énorme essai, avec une machine d'essai à Pavie, où on a pris une tranche de l'appareil d'appui, un huitième de l'appareil d'appui. Alors, là encore, on a des conséquences importantes sur les phases de construction. Pas de problème, tant que vous construisez la partie symétrique avec les 17 premières paires de haubans, évidemment, on met un blocage sur culée pour de façon à ce qu'en cas de coup de vent, il n'y ait pas trop de problème. Mais lorsque je vais continuer la construction des fléaux, eh bien, à ce moment-là, je vais venir créer un effort d'appui du tablier sur la culée. Donc, on a mis en place un blocage par des systèmes de plots et de vérins, de façon à bloquer le tablier, parce que là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir de traction dans la partie centrale du tablier, puisqu'elle n'est pas là, et donc, on s'appuie. Je finis, je construis la partie suspendue jusqu'au clavage exclu, et pour le moment, j'ai toujours mon effet de poussée qui fait 8 à 9 000 tonnes sur la culée. Et puis, à ce moment-là, tiens, j'ai fait une bêtise, hein. Voilà, à ce moment-là, je vais venir claver au centre. Entre parenthèses, le premier coup de soudure a été fait par M. Erdogan, j'espère qu'on l'a refait après. C'est classique, hein, ce genre de choses. Le premier béton du clavage du pont de Chalon-sur-Saône a été fait par M. Perben. Hein. Et alors, en plus, il avait caché avec un petit peu de vin de Mâcon. Bon, enfin bref, de Côte-Chalonnaise, pardon. Alors, et là, on est toujours bloqué, mais là, il y a une phase un petit peu délicate. À partir du moment où on vient de claver, on est sur les vérins, et quand je vais relâcher les vérins, automatiquement, l'effet de traction va venir s'installer. Alors, on va passer quelques photos très vite avant de vous lâcher, parce que c'est vraiment honteux le temps que j'ai pris. Alors, le démarrage, construction des pieux de fondation. Chaque jambe de pylône est fondée sur un puits, pas un pieu, hein. 20 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur, creusé à la main, pas une goutte d'eau. Vous avez une photo qui vous donne l'état en mai 2013, au moment où les Coréens sont arrivés, parce que le concessionnaire qui a décidé de sous-traiter la construction du pont à des Coréens, parce qu'il avait, d'autres chats à fouetter avec 50 ponts, des tunnels, etc., pour ne pas perdre de temps, a commencé à faire les fondations et qu'il a mis à disposition des Coréens derrière. Le massif d'ancrage des câbles porteurs, qu'on voit donc ici derrière, vous apercevez la travée de rive vue d'avion, plus le massif d'ancrage qui est en train d'être creusé, avec une petite surprise, puisqu'on a malheureusement trouvé une faille côté asiatique, qu'on n'avait pas décelée par les sondages. L'excavation côté Europe, le bétonnage avec toute l'installation des câbles de précontrainte qui vont permettre d'attacher les différents torons du câble porteur. Les travées de rive, les ancrages à terre, hein, là où on va ancrer les haubans arrière. Et voilà, vous apercevez les deux petits tunnels. Là, voilà les tubes des haubans qui sortent et qu'il faut avoir réglés avec minutie pour ne pas avoir de cassure angulaire. Les travées de rive, avec une vue 3D, on a préféré avoir des armes multiples plutôt que des entretoises. Au total, c'était plutôt plus économique. Un énorme échafaudage, les Turcs travaillent, se cassent pas la tête, hein. Ils ont beaucoup d'ouvriers qui travaillent très bien. Nos amis italiens disaient « un Turc égale deux Italiens ». Non publiable. L'ouvrage qui se termine, voici la situation en juillet 2014. Les pylônes, avec leur forme définie par Jean-François. Alors là, les entreprises ont préféré construire les jambes de pylône jusqu'à 208 mètres de hauteur avec des coffrages glissants. On s'est battu avec Jean-François à perte, hein, sans gagner, pour les convaincre de ne pas faire ça. Ils en ont bavé des rondelles parce que c'est tellement grand, tellement déformable, le coffrage glissant n'était pas génial et tout. Ils en ont bavé et finalement, ils auraient mis moins de temps avec des coffrages autogrimpants. Puis en plus, ça aurait été plus joli. Et puis on aurait eu moins de petits problèmes. À partir de 208 mètres, là où on a tout un tas de pièces d'ancrage pour les haubans, eh bien, ils sont revenus à la sagesse et ils ont pris des coffrages autogrimpants qui ont marché de Péri. Je ne fais pas de publicité, mais Péri et Doka, c'est les deux seuls fournisseurs de coffrages qui sont vraiment capables de faire n'importe quoi. Impeccable. C'était les mêmes d'ailleurs à Lille. Et dans ces têtes de pylône, on a des pièces d'ancrage en acier pour ancrer les haubans. Pourquoi ? Parce que le hauban avant, il tire d'un côté, le hauban arrière tire de l'autre, entre les deux, j'ai une traction. Attention, c'est mieux de mettre de l'acier que du béton, parce que le béton, il résiste bien à la compression, mal à la traction, et donc c'est bien plus compliqué. Alors, voilà des pièces, c'est des petits teints, c'est du gros bébé. Hein. Voilà la première. Ça, en bas, c'est un camion grue. C'est pour donner l'échelle du pont. Voilà le... Les pylônes sont à peu près terminés en novembre 2014. Et là, on passe à la construction du tablier en acier. Voilà une vue éclatée qui montre les trois conditions, les trois parties, partie urbanée, partie de transition, partie suspendue. L'arrivée du premier élément de voussoir, celui-là était très court, le jour de Noël 2014. La pose des premiers voussoirs, ceux-là, ils sont normaux, ils font 24 mètres de long. Mais comme la barge ne pouvait pas s'approcher assez près à cause de l'avancée en rivière, il a fallu poser les voussoirs sur des camags, sur des chariots, et les lever, heureusement que ça se termine parce qu'il n'en peut plus là, et les lever à l'aide de derricks. Hein, vous avez deux derricks, un de chaque côté, qui ont un fonctionnement assez compliqué parce qu'il faut qu'ils échappent les haubans. Donc pour les avancer, il faut les déplacer, les avancer, on va en remettre, etc. Voilà la construction progressive, levage d'un voussoir, les derricks vus d'en haut, le tablier vu de l'intérieur, et puis là, si ça veut bien marcher, voilà. Alors, là, lever un voussoir avec des suspentes de part et d'autre, là, c'est pas si facile que ça. Parce que votre voussoir, il peut gigoter. Alors, toc. Ok, je ne veux pas passer, lui. Là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il veut bien passer là? Voilà. Alors, c'est une toute petite force. Le vent, il arrive comme ça, légèrement latéralement, et dans cette espèce de voussoir creux, là, ici, eh ben, il va créer des petites forces. Ça ne bouge pas beaucoup au début. Et puis, petit à petit, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, pour s'en tirer, parce que c'était évidemment pas très sympathique, on a mis des bâches sur les parties latérales. On a des bâches qui sont là simplement pour empêcher le vent de venir s'engouffrer dans le système et de venir faire tourner. Là, 15 minutes, voilà, 20 minutes, on ne reste plus dessus. Hein. Voilà, donc voilà les flèches vers le bas. Le tablier plie énormément sous l'effet du poids qu'on amène avant la mise en place des haubans, etc. La suspension. Alors la suspension, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais les câbles sont constitués d'un certain nombre de torons. Chaque toron est constitué de 127 fils, et on a je ne sais plus combien de câbles. Alors là, je n'arrive plus à lire. Hein, c'est combien. Je ne sais plus combien de fils. 122. Voilà, 122. Hein, donc on a 122 torons de 127 fils de 5,4 mm. Qui sont déviés en tête des pylônes par ce qu'on appelle des selles, ce qui est tout à fait classique. Alors là, on a eu des petites surprises parce qu'elles ont été fabriquées d'abord en Chine, puis mises à la poubelle, et on en a refait d'autres en Italie. Évidemment, point de vue délai, c'est pas génial. Alors voilà, les selles sont tellement grosses qu'elles sont faites en deux morceaux et qu'on a réassemblé par boulonnage sur place. Voilà une selle de 100 tonnes. On met en place en même temps ce qu'on appelle les catwalks, c'est-à-dire qu'on va tendre au-dessus des pylônes et ancrer derrière une espèce de passerelle. Là, la voilà, c'est là-dessus qu'on marche. Et sur cette passerelle, on va petit à petit mettre en place les câbles toron par toron. Chaque paquet de 127 fils est amené, tiré par un téléphérique, et puis posé. Vous avez, il y en a deux là qui se. Il y en a trois, on en a trois, on en met trois là en ce moment. Et on va venir les mettre pour constituer un paquet de câbles qu'on va installer dans la selle en tête de pylône. Et puis, ils vont les passer pour aller descendre s'ancrer dans les massifs d'ancrage. On les passe sur une grille de triage. Et puis là, vous voyez, on descend l'ancrage et on va venir l'attacher sur la tête d'ancrage des câbles de précontrainte qui sont tout en bas. Une fois qu'on a mis ce paquet, il faut le compacter. C'est-à-dire qu'on va transformer ce paquet un petit peu bordélique de torons de 127 fils en un seul paquet bien rond, à l'aide d'une machine à vérin qui va venir compacter et donner au câble une forme parfaitement ronde. On va amener les colliers, en deux morceaux bien sûr, qu'on va fixer sur le câble, et puis de là, on va pouvoir mettre en place deux appareils qui vont permettre de lever les voussoirs, hein, qui sont posés sur les câbles, qui se déplacent sur les câbles, et avec ces appareils, on va lever les voussoirs successifs. Bien entendu, il faut le faire symétriquement, parce que si on le faisait de façon dissymétrique, le câble porteur, lui, se déplacerait et on aurait un déplacement du tablier général, enfin une tentative de déplacement général, le câble se déplacerait, donc le voussoir ne serait pas où il faut, donc il faut lever les deux en même temps. Voilà, Et puis, on a levé le dernier mouchoir. Et si maintenant, cette vidéo a été faite il y a 4 ans et demi, et aujourd'hui, on pourrait le voir comme ça. C'est comme ça qu'est aujourd'hui le pont sur le Bosphore qui a été, comme ça a été dit tout à l'heure, inauguré vendredi dans une réunion totalement politique par M. Erdogan. Merci de votre attention.
Merci. Monsieur Verlejeu, merci infiniment pour cette superbe leçon inaugurale. Je pense que c'est vraiment une introduction
au métier parfaite, du génie civil.
Au métier du génie civil. Un encouragement aussi pour les enseignements, et je pense aux enseignements de mécanique que vous allez avoir, bien sûr. Et nous avons traditionnellement un temps de débat avec notre public. Donc, c'est le moment de poser les questions qui vous tiennent à cœur.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé de construire, du coup, par exemple, un grand pont et de tomber après, une fois construit, sur un problème, finalement, qui s'est révélé qu'une fois que le pont était en place ?
Alors, oui, bien sûr. J'ai eu quelques petits soucis. Un très grave dans les années 70. Quelqu'un m'a convaincu de modifier quelque chose dans le projet et ça s'est avéré un véritable désastre. Tout simplement, il y avait deux écoles à l'époque en béton précontraint. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'en béton précontraint ? Dans l'un des cas, les câbles de continuité inférieure, ce qu'on met en bas dans le caisson, étaient systématiquement logés dans ce que j'appelle les nœuds à la liaison, merveilleux, les nœuds à la liaison entre le ourdi et lame latérale. Et une autre entreprise avait l'habitude, donc la méthode, allez, on va dire les choses Campon-Bernard, ça consistait à mettre les câbles de continuité ici. Alors le dessin n'est pas très beau, je m'en fiche, c'est pas grave, ils sont entre parenthèses bien cadrés par... armatures, tout ce qu'il faut. Voilà. Et l'autre théorie, c'était à l'époque de coller des câbles dans le ourdi inférieur. Il y avait eu des problèmes déjà, mais les tenants de cette théorie expliquaient qu'ils avaient eu ces problèmes. Moi, j'avais fait un dessin comme ça, et puis comme j'étais encore très jeune à l'époque, influençable, je me suis laissé aller à ça. Alors le problème, c'est que le pont en question avait un ourdi inférieur courbe, et évidemment, on avait des voussoirs, des joints de voussoirs qui étaient verticaux. Et cette entreprise, on avait des gros problèmes à l'époque, on s'est interrogé beaucoup sur les pertes de frottement dans les câbles de précontrainte. Et donc... pour éviter les ondulations, l'entreprise avait eu l'idée de mettre, si vous êtes dans les gaines, ici, une barre. Et donc, quand vous avez un voussoir, si vous voulez, le câble était là, il était, vous avez la gaine qui était là, donc il mettait une barre à l'intérieur pour être certain que la gaine soit bien rectiligne. Le problème, si vous voulez, c'est que, les voussoirs, ils étaient comme les câbles. Ils avaient une cassure angulaire à chaque joint de voussoir. Et à l'époque aussi, les gens disaient, mais c'est pas la peine de mettre des... On n'a pas besoin de mettre des étriers dans les voussoirs. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre des armatures dans l'épaisseur des voussoirs. Aujourd'hui, il y a belle lurette. Moi, j'exige qu'on ait un petit cavalier comme ça ou qu'on fasse autrement, c'est bien. De toute façon, c'est d'avoir les armatures qui font comme ça. Résultat pratique, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand ils ont injecté les câbles de précontrainte en envoyant du coulis, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que... Il n'y a pas de fer rouge, c'est pas grave. Ça crée une petite fissure, là. Le truc, avec la cassure angulaire, c'est les câbles par la cassure angulaire, il y a une poussée au vide du câble vers le bas, comme ça. qui a créé une micro-fissure là. Et là, ils ont injecté. Et puis alors, ils étaient, je ne sais pas, il n'y avait personne qui devait surveiller ça. Ils étaient très très fiers parce qu'ils avaient injecté 7 fois le coulis théorique, 7 fois le volume théorique. Donc, vous êtes con, hein. 7 fois le volume théorique. Ils ne se sont pas demandé où ça passait. Alors ils se sont arrêtés quand ils ont vu le coulis qui pissait dans le canal du Rhin. Donc ils se sont arrêtés là, à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui s'était passé tout simplement? Alors là, après, on allait voir. Hein. Vous aviez, le Rhin était comme ça. Vous aviez 2 demi-ourdis. Voilà. Donc ici, avec le cadre de pré-contrainte là, évidemment. Voilà. Et puis tout ça, c'était rempli de poulies. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est pas très génial. Hein. Donc là, ça a fait un truc. Il a fallu réparer ça. Je peux vous garantir que c'est la réparation la plus sportive que j'ai jamais faite. Hein. Parce qu'il a fallu charger le pont pour décomprimer l'ourdi. 400 tonnes par la travée. À ce moment-là, on est venu, on a créé des entretoises ici pour aller venir récupérer les cartes de pré-contrainte, parce que si on ne faisait rien, les cartes de pré-contrainte, ils seraient allés tout droit. Hein. Donc on est venu récupérer les cartes de pré-contrainte, on a démoli l'ourdi, on a refait un ourdi. Et, non. Ça a coûté la bonbon. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est la pire que j'ai eue. J'ai eu des autres trucs, des herbes. Il y a un côté, ça. Les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est surtout des problèmes de durabilité. C'est-à-dire mauvaise injection égale corrosion des cartes de pré-contrainte, rupture des cartes de pré-contrainte. C'est aussi mauvais blocage d'un toron de houban. Alors évidemment, à chaque fois, on essaye de trouver les solutions. Parce que l'une des choses absolument fondamentales dans ce métier, c'est qu'il faut toujours être critique vis-à-vis de ce qu'on a fait et chercher des solutions pour que ça ne recommence pas.
Oui. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelques précisions sur comment ça se passe une fois que l'appel d'offres est lancé. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies dessus c'est complètement international. De compagnies dessus enfin, d'entreprises. Et est-ce que c'est international et est-ce que du coup ça vous est déjà arrivé de perdre des...
Ah bah oui alors. Ça alors, on perd plus souvent qu'on gagne, hein. Ça c'est sûr. Alors les appels d'offres ça dépend complètement. Hein. En France vous avez... Alors aujourd'hui en Europe, c'est ça, vous avez des lois européennes qui font que les appels d'offres sont toujours européens. Bon, ceci dit, vous avez quand même relativement peu d'entreprises non françaises qui répondent. Il faut dire aussi que les entreprises nationalement se font un peu des chasses gardées. Hein. Ceci dit, en France, vous avez des entreprises espagnoles qui travaillent, mais un peu d'italiens également. Alors, moi, je travaille surtout au niveau projet. Il y a deux types d'appels d'offres. Il y a les appels d'offres de projet, les appels d'offres de travaux, de conception-construction. Alors, pour les grosses affaires comme le Bosphore, c'était international, bien entendu. Actuellement, moi, j'ai, avec la fin du Bosphore, j'ai plus de projets en cours, mais je réponds sur 3 ou 4, peut-être même 4 ou 5 appels d'offres. Je serais bien content si j'en gagne.
Bonjour, j'aurais aimé savoir, vous passez combien de temps sur le terrain quand vous faites un pont?
Alors, moi, je ne passe pas beaucoup de temps sur le terrain. Alors, ça dépend beaucoup des choses. Hein. Alors, ça dépend des fois. Le pont de Normandie, j'y allais pas mal au début, mais relativement peu. C'est, sur le terrain, c'est plutôt le rôle du maître d'œuvre, hein, beaucoup plus que du bureau d'études. Alors, ça dépend un peu des cas aussi. Par exemple, pour Millau, c'était organisé, il y avait ce qu'on appelle un comité technique qui se réunissait régulièrement, je dirais, toutes les 3 semaines ou tous les mois, sur place. Mais... par exemple, je ne suis jamais allé pendant une opération de lançage parce que je n'ai pas de responsabilité dans le lançage. Il y a des gens qui sont là pour ça, il ne faut pas aller foutre le bordel non plus. Donc, le Bosphore, c'est un peu différent parce qu'il fallait, comme on avait eu 2 mois pour faire l'avant-projet, la réponse à l'appel d'offres, que derrière, on a eu très peu de temps pour passer du dossier d'appel d'offres à un projet préliminaire, je dirais. Derrière, il y a eu beaucoup de choses à faire pendant les travaux. Donc là, c'était tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on passait 2 jours sur place. Mais pour faire des études, pas pour suivre les travaux. Ça, c'était... On avait... L'équipe de Jean-François et moi, on n'avait aucune responsabilité directe dans le suivi des travaux. Historiquement, si vous voulez, les ponts suspendus sont très vieux. Hein. Les moines tibétains faisaient des ponts suspendus en chaîne de fer au 6e siècle. Donc, les ponts suspendus, c'est très, très, très vieux le concept. Les Chinois ont construit un pont suspendu de 100 mètres de portée vers 1815-1820, je ne sais plus de la date exacte, sur la rivière Dadou. Hein, donc, c'est très vieux, ça. Les ponts au banc, on a essayé au début du 19e siècle. Il y en a eu 2 qui ont été faits, un sur la Salle en Allemagne, un sur la Tweed en Angleterre, qui se sont cassés la gueule de façon spectaculaire parce qu'ils n'avaient rien compris au fonctionnement des ponts au banc. Donc là, ils ont pris sur la figure, ce qui a permis à un de nos brillants savants français, alors, je ne devrais pas dire ça parce que je fais souvent cours dans son amphi, Navier, d'expliquer que les ponts au banc, ça ne tenait pas. Bon, donc c'était un peu dommage. Bon, pour l'Académie des sciences, c'est tout le bordel. Voilà, bon. Alors les ponts au banc, c'est revenu très progressivement. Alors, d'abord, les haubans sont venus en appui des ponts suspendus à la fin du 19e, comme je l'ai expliqué, hein, avec Roebling, et puis il y a eu d'autres exemples. Mais les ponts à haubans sont vraiment, il y a eu quelques pionniers d'avant, mais sont vraiment développés dans les années 50 en Allemagne, hein, sous l'influence d'un type qui s'appelle Phil Dischinger. Alors les ponts haubans, quelles sont leurs limites? La limite des ponts haubans, c'est le poids des câbles. Les câbles, si vous voulez, ils font une chaînette. Et cette chaînette fait que le pont, il n'a pas la rigidité de l'acier tout droit. Le module de déformation d'un câble, le module physique, c'est 195 000 mégapascales. Mais quand vous avez un câble qui est très, 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 très long, qui a une grosse chaînette, qui a une tension qui est limitée sous charge de service à, je dirais, 45% de la résistance à rupture, eh bien, son module apparent est beaucoup plus faible. Et donc, plus la portée devient grande, plus l'efficacité des haubans diminue. Alors que l'efficacité d'un câble porteur de pont suspendu ne l'est pas. Donc, si vous voulez, il y a une limite. Alors, où elle est? La limite, c'est jamais un truc comme ça. Hein. C'est où est la limite entre les ponts haubans et les ponts suspendus? Alors, je dirais, actuellement, le plus grand pont à haubans, c'est le pont de l'île Rouski en Russie. Il doit faire 1108 mètres, un truc comme ça. Les Danois avaient fait un projet de pont haubans de 1200 mètres de portée au Danemark, là, pour le Storbælt, mais finalement, ils ont préféré un pont suspendu d'une portée plus grande. Je dirais que, bon, à partir de 1200 mètres, ça commence à devenir un peu sportif. Alors, Leonhardt avait prétendu en faire un 1500 mètres. Donc le Bosphore, c'est un exemple un peu intermédiaire, ce qu'on appelle un pont hybride, où on est à la fois au banc et suspendu, ce qui est une solution assez efficace.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, il reste de la demande en termes de génie civil, ouvrage d'art en France.
Pardon, j'ai pas entendu.
Est-ce qu'il reste de la demande en termes de génie civil, ouvrage d'art en France ou en Europe? Ou est-ce que de plus en plus, on peut considérer que si on veut rester dans ce domaine, il faudrait aller travailler à l'étranger, notamment dans des pays en développement? Comme vous, apparemment vos projets se sont, au fur et à mesure, on va dire, décalés vers l'Est et vers l'Orient, est-ce qu'aujourd'hui, il reste vraiment encore de la demande en Europe?
Bon, alors en France, pas tellement, hein, faut être clair. Hein. En France, il n'y a quand même pas beaucoup de grands projets aujourd'hui. Alors, il faudra voir ce que donnera le Grand Paris, mais enfin, à mon avis, ça ne sera pas dans le domaine des grands ponts. Hein. Même s'il y a peut-être des ponts qui vont se faire. Mais, n'oubliez pas quand même que l'une des parties des métiers, c'est la gestion du parc existant. Vous avez un problème de maintenance, de réparation, donc il y a quand même énormément de métiers qui fonctionnent dans ce domaine. Donc de nouveaux ouvrages, pas forcément beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité dans le domaine, parce qu'on a un parc considérable. L'une des raisons pour lesquelles il n'y a plus beaucoup de nouveaux ponts, c'est parce qu'on a un gros parc. Et si on a un gros parc, il faut l'entretenir. Et puis on aura des ouvrages qui vont être en bout de souffle et qu'il faudra remplacer. Simplement, on ne va plus avoir beaucoup de nouvelles autoroutes, de trucs comme ça, je crois que c'est clair. Alors, dire que c'est les pays en voie de développement, ce n'est pas sûr, parce qu'actuellement, par exemple, vous avez beaucoup d'appels d'offres aux États-Unis et au Canada. On ne peut pas dire quand même que ce sont des pays en voie de développement. L'endroit où on a le plus de construction aujourd'hui, c'est la Chine. Pour aller travailler en Chine, il faut s'accrocher un peu. Il y a la Russie aussi, mais là, c'est très dur également. Il y a un premier principe, l'ingénieur russe a toujours raison. Et après, même quand il a tort, il a toujours raison. Donc, c'est dur de travailler là-bas. Bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, le travail est international. Ça, c'est clair. Vous devrez parler anglais, vous devrez être souple, être capable de vous adapter à des situations, à des pays et à des logiques différentes. Hein, que les règlements ne sont pas les mêmes, etc. Donc ça, c'est compliqué quand même. Mais on ne va pas dans un pays tout seul. Il faut travailler avec des gens locaux. Vous ne débarquez pas en parachutiste comme ça.
Est-ce que vous pensez pour leur démontage, ou alors ça vient vraiment très loin dans la conception?
Alors, démontage, pas forcément, il faut être honnête. Hein. Mais par contre, la maintenance, oui. Sur un pont suspendu aujourd'hui, j'en ai fait très peu, hein, au contraire, pour moi, ce que vous pensez, madame. Des ponts au banc, beaucoup, mais des ponts suspendus, non. J'ai fait une petite passerelle suspendue à Sarreguemines, qui a permis d'ailleurs au maire de perdre l'élection d'après, parce qu'on lui a reproché. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est très mignonne, la passerelle, hein, ça ne fait rien. Si vous voulez... sur les ponts suspendus aujourd'hui, l'un des points des ponts suspendus, c'est la durabilité des câbles de suspension. La protection n'est pas fantastique. Il a fallu, par exemple, remplacer la suspension du pont de Tancarville, hein, dans les années entre 1995 et 2000. Ils étaient rouillés, il faut vous dire qu'il y avait au moins 10% des câbles cassés par corrosion. Et alors, comment remplacer? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que il faudrait soit trouver une solution beaucoup plus pérenne. On imagine, par exemple, d'injecter de l'air sec hein, dans les câbles de pont suspendus, mais on n'est pas certain que ça soit très efficace. Alors, ou bien trouver une solution pérenne, mais c'est comme pour les autres types de solutions, là, on n'a pas d'idée, parce qu'autrement, on l'aurait tout de suite fait. Hein. Ou bien, par contre, être capable de le remplacer dans de bonnes conditions. Et ça, par contre, on peut l'organiser. À condition que le maître d'ouvrage accepte de payer le supplément.
Quelle a été finalement, entre le moment où vous avez commencé et maintenant, les défis éventuellement qui sont de moins en moins présents et qui commencent un peu à apparaître, comment ça a évolué la situation autour du moment de la construction des
Alors, je vais vous dire les choses en clair. Hein. Moi, ça fait 42 ans. Enfin, j'ai commencé ma carrière en Tunisie, mais pendant 3 ans, j'ai fait plutôt de routier généraliste plus de planification plus que d'ouvrage d'art. Alors, d'ouvrage d'art proprement, ça fait 42 ans. Mais je peux vous dire que c'est un autre monde. Ce qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 42 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose. On ne sort pas de l'école en ayant appris quelque chose qu'on va appliquer pendant sa vie. Hein, ça change tout le temps. Les règlements... Je ne sais plus à combien de couches. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, moi, je ne sais même plus quel est le règlement qu'on applique, parce qu'ils ont tellement changé souvent, y compris dans la philosophie. Alors, donc, ça change beaucoup. Aujourd'hui, vous avez des moyens informatiques qu'on n'avait pas. Moi, mes premiers ponts, je les ai faits à la règle à calcul. Hein. Une Aristo de 12 cm qu'on m'a volé. Et là, un ancien ingénieur du CETRA, de mon équipe, là, qui est au Canada aujourd'hui, on a trouvé une sur Amazon qui m'a envoyé en cadeau. Donc j'ai récupéré une Aristo de 12 cm. Et j'avais une règle, tout calcul fait à la main est faux. Tout problème, c'est de savoir de combien. Alors, bon. Alors, le pont des Deux-Rées, d'abord, pour savoir, je parlais de l'évolution. À l'époque de l'île de Ré, c'est-à-dire le milieu des années 80, la philosophie qu'on avait de la construction n'était plus tout celle d'aujourd'hui, il hein, faut être bien clair. Hein. Alors, comme il n'y a pas de témoins, je vais raconter des choses que je n'aurais pas racontées. L'île de Ré, c'est une affaire assez marrante. Parce qu'on avait commencé à travailler pour l'île de Ré pour le Conseil général. Mais à l'époque, c'était très curieux là-bas. Tous les 3 ans, c'est que les conseils généraux, ça change tous les 3 ans par moitié. Donc on a commencé avec la droite. Puis là, 3 ans après, boum, c'est la gauche qui est passée, qui nous a virés et qui a mis cette route. Et puis 3 ans après, la droite est repassée et ils ont viré cette route et ils nous ont rappelé. Bon, c'est déjà, ça donne déjà le contexte. Hein. Bon, alors là-dessus, alors je vais être très très méchant, mais il y avait plusieurs candidats pour devenir président du Conseil général qui étaient tous soutenus par une grande entreprise française. Bon, alors, il y a donc eu un appel. On aurait fait un projet de base, on en a fait même deux d'ailleurs, dont un qui était complètement idiot, bon, enfin bon, ça il faut l'oublier. Il y en avait un qui était tout à fait correct. Et il y a eu un appel d'offres, donc avec pas mal d'entreprises, 5 entreprises. Quand il y a des gros appels d'offres de conception-construction, le nombre de réponses est toujours limité à entre 3 et 5 en général, parce que ça coûte énormément d'argent aux entreprises. Donc là, il y a eu plusieurs réponses, et à l'arrivée, je crois qu'il y a eu 3, 3 qui étaient présélectionnés, et dont une n'avait pas aucune chance, et puis il y avait en fait deux options, deux groupes. L'un, c'était celui de Bouygues, qui avait repris notre projet en augmentant en réduisant la portée de 120 à 110 mètres parce que pour que la poutre de lancement soit moins coûteuse. Et l'autre projet était techniquement différent, était fait par c'était Cantenon et GTM, ils étaient associés, je crois, qui était une solution différente, qui est celle qu'ils ont reprise plus tard pour le pont de la Confédération Canada, qui était beaucoup plus astucieuse. Mais ils ont fait une présentation au Conseil général qui était absolument désastreuse, et ils se sont fait virer, et c'est lui qui a reçu le pont. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Hein. Les projets, il faut les faire, et puis après, il faut les vendre. Hein. Il faut être capable de convaincre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut savoir faire. Le vent, pour les grandes portées, les problèmes, il y en a de beaucoup. Enfin, l'action la plus dangereuse, c'est celle du vent. Le problème qu'on a, tu vois, c'est toujours d'arriver à définir une conception cohérente, hein, qui permette de régler l'ensemble des problèmes qu'on a à régler, qui sont quelquefois différents. Par exemple, une grande portée, vous aussi, un problème, c'est le souffle des joints. Où est-ce que vous allez mettre des joints de chaussée, hein? Je prends un pont suspendu. Est-ce que vous allez mettre des joints de chaussée aux deux extrémités? Ou est-ce que vous allez couper le tablier au droit des pylônes avec des joints de chaussée au droit des pylônes? Il y a des quantités de problèmes à régler. Donc, si vous voulez, quand on fait un pont poussé, le nombre de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer est très réduit. Hein, je veux dire que, bon, aujourd'hui, moi, c'est clair, hein, pour faire un pont en ossature mixte ou un pont poussé, personne ne m'appelle, parce que personne n'a besoin de moi. Quand vous faites un pont en hauban ou un pont suspendu, vous avez des quantités de décisions à prendre. C'est vraiment. Il n'y en a pas deux pareils, tout est différent. Et là, si vous voulez, vous avez beaucoup plus, évidemment, de choix à faire. Et c'est la cohérence de l'ensemble de ces choix qui fait que ça va être efficace et que ça va gagner.
Bien, et bien, je pense que nous allons vous remercier pour cette question.